Eh bien, bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse, bonsoir à ceux qui nous rejoignent sur Internet, bonjour à ceux qui nous rejoignent à la radio, que Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui, pour nous c'est un jour spécial, parce que nous avons décidé aujourd'hui de fêter nos 20 ans de vie de château. En fait, c'était à Pâques, mais bon, s'il faisait froid, c'était pas beau, le parc n'était pas tellement joli, bien qu'aujourd'hui les roses ne sont pas encore sorties, mais bon, quand même c'est plus joli qu'à Pâques. Donc, nous fêtons nos 20 ans de vie de château. C'est quand même quelque chose de formidable. Je me rappelle avant qu'on achète le château, déjà, on nous déclarait perdants. Et puis maintenant, une fois qu'on l'a eu, on nous a dit, vous l'aurez pas longtemps. Et puis maintenant, ça fait 20 ans, et les gens disent, mais quelle chance vous avez de vivre dans un endroit comme ça. Non, c'est pas une chance, c'est une bénédiction de Dieu. Amen. Dieu nous l'avait donné et nous l'avons pris. C'est ça, là, le secret. Et pour fêter ça dignement, pour marquer vraiment le coup, eh bien, la communauté a pensé inviter un orateur, quelqu'un qui est connu, quelqu'un qui est reconnu et qui est même tellement connu que sa voix parcourt le monde entier, on peut dire. Et je l'ai visité dans son église plusieurs fois. Ça fait maintenant 15 ans que nous nous connaissons, quand même, peut-être même plus que 15 ans. Et vous savez, quand on connaît quelqu'un comme ça longtemps et que tout se passe bien, c'est tellement rare, c'est tellement rare. Surtout que nous n'avons pas forcément toujours la même éducation, les mêmes croyances, les mêmes ceci, les mêmes cela, en toutes choses. Nous sommes différents, mais nous avons le même Seigneur, le même Dieu et le même esprit qui nous anime, c'est un esprit d'amour pour Jésus-Christ le Seigneur. Amen. Et voilà pourquoi ce soir je suis très heureux, très excité de vous présenter notre frère François Le Picard, j'allais dire le frère Branham. je suis content, alors voilà, c'est pour ça. Parce que notre frère François Le Picard, c'est lui que vous entendez presque chaque fois que vous écoutez une prédication de frère Branham, le prophète, eh bien c'est lui qui le traduit en français. Ça fait plus de 30 ans, je crois, que tu fais ça maintenant. 40 ans, j'ai mis 30 ans sur Internet, 40 ans déjà. Et pour nous, c'est un émerveillement de l'avoir ici. Moi, je ferme les yeux, j'ai l'impression que c'est frère Branham qui prêche. Non, c'est un frère qui a son ministère à lui, qui a son don à lui et qui va nous communiquer ce que le Seigneur lui a donné ce soir et encore demain et encore après-demain. Pour nous, c'est un immense privilège. Vraiment, c'est un grand privilège de te recevoir parce que tu es quelqu'un qui est important dans notre vie, parce que tu as quelque chose de Dieu qui est magnifique, cette douceur, cette gentillesse, mais cette fermeté sur la parole que nous apprécions, que nous aimons beaucoup. Et puis nous aimons aussi beaucoup ton épouse, sœur Suzanne, qui est avec nous. On va faire des belles photos demain et on mettra sur Internet, comme ça tout le monde pourra voir. On a déjà mis une photo, mais on va en mettre encore d'autres avec Michou, avec la communauté. Et puis je crois que ce que tu vas nous apporter est quand même assez visuel. Alors nous mettrons aussi des photos de toutes les choses que tu as amenées, que tu as préparées. Je vois ici comme des gibets, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je suis sûr que c'est quelque chose de bon. Mais il y a des crochets, on dirait un instrument de torture. Mais je ne sais pas ce que c'est, mais je me réjouis beaucoup et je crois que le Seigneur va nous parler. En tout cas, nous avons prié pour ça, toute la communauté. Quand j'ai dit qui est-ce qu'on pourrait inviter, c'était l'unanimité. Ça n'a pas fait un pli. C'était frère François Le Picard. Alors nous sommes contents de l'avoir ce soir. On a la paix, on sait que Dieu va nous bénir, on est tranquille, on sait que ce n'est pas un frère qui juge, il a son avis, il a ses opinions, mais il ne condamne jamais. C'est comme le riz. Qui ne colle jamais. C'est magnifique d'avoir un frère et une sœur comme ça. En tout cas, que Dieu vous bénisse d'avoir quitté votre église. Ils ont une très jolie église là-bas vers Yverdon. Et nous avons eu l'occasion d'aller là souvent. Et quand nous allons en Suisse, et si ça tombe sur un dimanche, on va les voir. Et puis si on ne les rencontre pas à l'église, parce qu'on ne peut pas aller à l'église pendant nos vacances, Dieu s'arrange pour qu'on se rende compte à Carrefour ou dans un grand magasin. C'est drôle. Mais il y a quelque chose qui nous poursuit comme ça et qui fait que c'est toujours une joie. On se revoit souvent. Voilà. Je crois qu'on ne va pas aller plus loin, étant donné que ce soir, on n'a pas de musicien. Je vous présente le frère, donc François Le Picard, qui va vous apporter la parole de Dieu. C'est un immense cadeau que le Seigneur nous fait pour nos 20 ans de vie de château. On ne pouvait pas rêver mieux. Que Dieu te bénisse, mon frère. C'est à toi. Alors, ne t'inquiète pas, je vais prendre donc des photos. Hein. J'espère que ça ne va pas te gêner pendant que tu fais. Merci. Frère François, que Dieu te bénisse. Je suis tellement content. Très heureux. Merci.
Eh bien, bonsoir frères et sœurs, que Dieu vous bénisse chacun et chacune. C'est une joie pour mon épouse et pour moi-même d'être à nouveau avec vous ici à Lomblore. Je n'ai pas une très bonne mémoire, je ne me souviens pas quand c'était que nous sommes venus ici la dernière fois. Peut-être que l'un ou l'autre se souvient, ça fait combien d'années? Tout à l'heure je parlais avec le frère Philippe, il se souvient qu'on s'est vu, mais quand? Peut-être 14 ans. 14 ans peut-être. Ah là là. Comme le... En 96 peut-être. Ah là là. C'est bien. Ça fait un bon moment comme ça. Mais merci Seigneur, n'est-ce pas merveilleux qu'on ne s'est pas vu pendant toutes ces années, comme je disais avec frère Philippe tout à l'heure, mais on s'aime toujours. Et nous sommes éloignés par quelques centaines de kilomètres. Vous êtes ici en France, nous sommes en Suisse, mais... Je crois qu'en Christ, eh bien, il y a des liens solides qui nous gardent soudés les uns aux autres. Et beaucoup de choses peuvent arriver, certainement beaucoup de choses sont arrivées dans votre vie, comme dans notre vie, des bons moments, des moments plus difficiles, mais il y a un Seigneur qui nous aime, et puis qui nous tient, qui nous soutient, qui nous encourage, qui nous relève. C'est pour cela que nous sommes encore ici ce soir dans cette jolie petite chapelle, et c'est une joie aussi pour moi de voir ce... joli lieu de culte que vous aviez aménagé. La dernière fois que j'étais ici, je crois que nous nous sommes réunis dans la salle de séjour du château. Mais aujourd'hui, eh bien, c'était une surprise pour moi de découvrir ce joli endroit. Et je crois que le Seigneur Jésus est avec nous ce soir. Et c'est ça qui fait la différence. Merci frère Michel pour ces paroles bienvenues. Je ne me sens pas digne, disons, d'autant de gentillesse. Mais je crois que c'est le Seigneur Jésus, les uns dans les autres, que nous apprécions. Comme Jésus a dit, mais personne n'est bon, un seul est bon, Dieu est bon. Et c'est cette portion de Dieu qui est en nous, que nous apprécions les uns dans les autres. Je n'ai rien à vous donner, je ne suis pas un homme spécial, je suis un être humain tout à fait ordinaire, un pécheur sauvé par grâce. Mais si un petit bout du Seigneur Jésus en moi, comme un petit bout en vous aussi, et que ces deux portions se rencontrent, eh bien, ça va nous faire du bien, ça va nous édifier, ça va nous encourager. Donc, c'est simplement dans ce but-là que nous sommes ici pour ces quelques réunions. C'est afin de pouvoir s'encourager les uns les autres. Et je crois que vous pouvez autant m'apporter que moi je peux vous apporter, parce que je crois que notre meilleure prédication, c'est la prédication que l'on vit. Plus que la prédication que l'on prononce, c'est celle qu'on vit dans la vie de tous les jours. Et je suis heureux, disons, que Dieu vous ait gardé ensemble pendant toutes ces années ici. Et c'est vrai que vous vivez dans un cadre merveilleux. J'apprécie beaucoup ce grand parc, ces grands arbres, cette nature. Tout à l'heure, frère Michel a eu la gentillesse de venir nous chercher à Paris. Nous sommes venus en TGV de Valorbe en Suisse jusqu'à Paris. Et là, on a traversé Paris. Et c'est vrai, Paris, c'est Paris. Il n'y a qu'un Paris au monde. C'est une belle ville, mais... Personnellement, je ne pourrais pas vivre à Paris. J'ai besoin de nature, j'ai besoin de verdure. Je me sens vraiment étouffé ou écrasé dans ces grandes villes. Mais il y a des gens qui y vivent, que Dieu aime aussi. Et je suis heureux qu'il y ait des frères, des sœurs, que Dieu conduit à aller aussi témoigner de Jésus-Christ dans ces grandes villes où il y a aussi tellement de besoins. Où il y a des âmes, des hommes, des femmes qui ont besoin du Seigneur Jésus, qui ont besoin de connaître l'amour de Dieu, le salut en Jésus-Christ. Donc, je crois que Dieu nous a fait chacun pour un travail particulier. Comme frère Michel l'a dit, eh bien, Dieu m'a fait la grâce de pouvoir traduire le message de frère Branham. Ce message a touché mon cœur. Peut-être que je dirai quelques mots à ce sujet au cours des réunions. Mais quand je parle de ce message, eh bien, j'aimerais parler d'une vie, qui est la vie de Jésus-Christ. C'est ça qui m'impressionne. Il y a de l'enseignement, il y a de la doctrine, il y a beaucoup de choses merveilleuses, mais... Ce message dans le monde entier, et je voyageais dans quelques pays, mais ce message, partout où il est cru, ça produit une vie, quelque chose de concret, quelque chose de réel, quelque chose de visible. Et c'est ça que j'aime. Je suis un homme qui j'aimerais avoir les pieds sur terre et quelqu'un de pratique. Je veux être sûr de ce que je crois, et que ce soit quelque chose de réel. J'ai de la peine des fois à m'embarquer dans des choses tellement intellectuelles ou tellement abstraites que je ne sais plus très bien où j'en suis. J'aime ramener tout dans le concret, dans la réalité, de ma vie de tous les jours. Et c'est ça que j'ai vu dans ce message, que j'ai vu dans ce prophète, c'est une réalité, quelque chose de concret, de la vie de Jésus-Christ aujourd'hui, dans notre contexte. Et je dis, Seigneur, c'est de cela dont j'ai besoin. J'ai besoin de quelque chose que je peux appliquer tous les jours de ma vie. Et je suis heureux ce soir de voir plusieurs enfants, plusieurs jeunes. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez ici. Et je prie que Dieu m'aide à porter la parole de Dieu d'une façon tellement claire, tellement simple, que vous aussi les enfants, vous pourrez comprendre quelque chose. Quel âge as-tu, s'il te plaît ? 10 ans. Presque 10 ans. Ah, oh, c'est un âge merveilleux. Et toi, quel âge as-tu ? 13, presque 14. Et toi, la fille ? 8 ans. Ah, c'est très beau aussi. Et puis toi, quel âge as-tu ? 8 ans aussi, ça c'est un bel âge. Et toi, Luc ? Luc, 10 ans. C'est Luc ou Lucas ? Lucas. Lucas, ah, Lucas, sans le S, d'accord, Lucas. 10 ans aussi. Eh bien, juste je dirais ceci pour vous les enfants, que je crois que je n'ai pas oublié, non, je crois que c'est... Nous sommes tous des grands enfants, n'est-ce pas vrai ? Eh bien, j'avais 8 ans et demi. Donc, l'âge de 2 ou 3 d'entre vous, quand le Seigneur Jésus a touché mon cœur. J'étais un petit bonhomme comme ça, hein, dans une réunion d'évangélisation à Lausanne, en Suisse. J'ai entendu l'évangile et ça a touché mon cœur. Et j'ai senti qu'il y avait un Seigneur Jésus que je ne voyais pas, mais qui m'aimait. Et j'avais besoin d'amour. Et c'est à ce moment-là que je lui ai donné mon cœur, hein, que je l'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et c'était le point de départ d'une vie merveilleuse avec lui. Oh, je n'ai pas toujours été un bon garçon ou un bon disciple. Il y a eu des hauts, des bas, des moments, des mauvais moments, mais lui a toujours été fidèle. Et si ce soir, eh bien, je peux me tenir ici devant vous, c'est à cause de son amour, de sa grâce, de sa patience, de sa miséricorde. Et j'aurai, dans quelques semaines, j'aurai 60 ans. Nous sommes contemporains, votre pasteur et moi. Il est juste quelques mois un petit peu plus âgé que moi, donc je lui dois le respect de toute manière. Mais ça fait donc, c'est ça, plus de 50 ans que je marche avec le Seigneur Jésus. Et je n'ai pas honte de le dire ce soir que pour moi c'est la plus belle vie qu'un être humain puisse vivre sur la terre. J'ai voyagé, j'ai été dans des pays où il y a des gens qui pratiquent d'autres religions. J'ai été à l'île Maurice, où sur cette petite île, il y a de nombreuses religions. Il y a l'hindouisme qui est très, très fort, il y a l'islam, il y a le bouddhisme, il y a plusieurs religions chrétiennes aussi, catholicisme, protestantisme, différentes dénominations. Il y a aussi la sorcellerie, enfin il y a un petit peu de tout sur une île avec 1 million et quelques d'habitants. Donc c'est intéressant pour moi d'observer ces gens, de voir leur lieu de culte, un petit peu des gens très fervents, très religieux et tout cela. Mais je dirais ceci, qu'aujourd'hui, avec ma relation avec le Seigneur Jésus, qui est en train de grandir, de s'améliorer, je n'ai encore rien trouvé de meilleur que ce que le Seigneur m'a donné. Si aujourd'hui je n'étais pas un chrétien, je ne parle pas de prédicateur, mais juste un chrétien, eh bien... Je ne sais pas vers quoi d'autre me tourner. Qu'y a-t-il sur cette terre aujourd'hui de réel ? Oh, il y a beaucoup de choses, disons, imaginaires ou disons virtuelles ou tout cela, mais je parle de réel, de quelque chose de concret. Hein, vous pouvez dire, ça c'est du concret. Ça c'est du concret. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre, d'aussi concret, d'aussi réel, d'aussi puissant, d'aussi valable qu'une relation personnelle avec Jésus-Christ ? Qui est Dieu lui-même. Et simplement cette relation, cette amitié, cette communion qu'on peut avoir tous les jours, pour moi, ça vaut de l'or, même plus que cela. Donc, je remercie frère Michel de me permettre d'avoir 5 réunions. J'espère que vous allez me supporter pendant 5 réunions. mais c'est simplement qu'il y a à peu près une année en arrière, Dieu m'a fait passer par une certaine expérience très pénible, très douloureuse, où j'ai beaucoup souffert, ça m'a touché de très très près, et vraiment quelque chose d'inattendu. Et cette expérience m'a écrasé, m'a brisé, m'a humilié, m'a secoué. C'était vraiment très, très, très difficile comme cela. Mais combien d'entre vous croyez dans ce verset de Romains 8, 28 ? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous croyez ce passage-là ? Vous croyez que c'est vraiment ainsi dit le Seigneur ? Toutes choses, agréables ou désagréables, bonnes ou mauvaises, pour un croyant qui aime le Seigneur, qui était appelé par lui, toutes choses concourent à son bien. Il y a un autre passage dans l'Ancien Testament, c'est Deutéronome 23, 5, il me semble. On peut vérifier. Où il est dit que Dieu change les malédictions en bénédictions pour ceux qu'il aime. Donc quelque chose peut vous arriver où les gens diront « Ouh là là, on dirait une malédiction pour cette personne ». C'est vrai, ça ressemble à une malédiction. Mais si Dieu vous aime et que vous êtes sûr de l'amour de Dieu et que vous restez humble, tranquille, vous gardez vos yeux sur le Seigneur Jésus, dites « Seigneur, occupe-toi de cela ». Eh bien, le Dieu de la Bible, qui est le Créateur des cieux et de la terre, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il est tellement puissant. Il n'y a que lui qui puisse faire cela, d'après ce que je crois. Ce Dieu-là est tellement puissant qu'il peut prendre une malédiction et la transformer en bénédiction. Vous croyez cela ? Je peux vous donner plusieurs exemples dans la Bible. L'un d'entre eux, dans l'Ancien Testament, c'est l'exemple de Joseph. Combien connaissent l'histoire de Joseph ? Vous connaissez l'histoire de Joseph ? Hein ? Regardez cela. C'était un garçon spirituel. Il avait des sons, des visions, il communiait avec Dieu. Mais ses frères ne l'aimaient pas beaucoup. Il y avait comme une rivalité, une jalousie. Ses parents l'aimaient bien, mais entre frères et sœurs, ça ne passait pas très bien. À tel point qu'ils ont voulu se débarrasser de lui. Ça, c'est quand même pas très gentil de voir expulser un membre de la famille comme cela. Et finalement, vous connaissez tout le récit, il a atterri chez les Égyptiens là-bas. Et quelque chose lui est arrivé où il n'était pas fautif, il s'est retrouvé en prison. C'était une injustice. Il n'avait rien fait qui mérite la prison. Il est allé croupir dans cette prison pendant un certain nombre d'années. Donc c'était comme une malédiction, vous êtes d'accord ? Quelqu'un qui n'a fait rien de mal, qui avait une conduite droite, qui aimait Dieu, qui est un homme bon, eh bien finir en prison, on peut dire, mais c'est un scandale, c'est injuste que quelque chose comme ça lui arrive. Mais si on lit la Bible, Joseph ne s'est pas plaint de cela. Il n'a pas commencé à se lamenter sur son sort, à se prendre en pitié, « Oh, mais personne ne m'aime, pauvre de moi, oh, c'est triste, mais qu'est-ce que je vais faire, oh, ma vie n'a plus de sens et tout cela. » Non, non. Joseph savait qui il était. Il savait qu'il était un fils de Dieu. Il savait que Dieu l'aimait. Il savait que Dieu avait un plan pour sa vie. Il avait des sons, des visions. Il savait qu'il avait un avenir glorieux. Donc, il est resté tranquille dans sa prison. Mais il était serviable, il rendait des services là autour de lui. Il a réussi à se faire apprécier en prison. Mais parce que Dieu l'aimait, le jour est venu où Dieu a changé pour Joseph cette malédiction en bénédiction. Il s'est retrouvé à la droite de Pharaon. Pensez à cela. L'homme le plus élevé de tout le royaume juste après Pharaon. Un autre exemple que vous devez bien connaître, c'est l'exemple du Seigneur Jésus. Pensez à cela. Comment comprendre qu'un homme bon comme Jésus, parfait comme lui, rempli d'amour pour les autres comme lui, comment est-ce possible qu'il puisse finir sur une croix, crucifié, rejeté, bafoué, on s'est moqué de lui, on l'a craché dessus, on l'a frappé. Mais comment est-ce possible ? C'est une injustice. Pourquoi lui faire autant de mal alors qu'il n'a fait que du bien ? Vous êtes d'accord avec moi ? Hein ? Mais la Bible dit eh bien que Jésus, il a accepté la malédiction de la croix. Et dans l'Ancien Testament, il y a un passage qui dit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». C'est ce que la Bible dit. Eh bien, il a accepté d'être un homme maudit d'après sa propre parole. C'est quand même fort, vous ne trouvez pas ? Et quand les gens l'ont vu sur la croix, ils ont dit « Mais les gens n'arrivaient pas à comprendre ». Il savait qu'il avait guéri les malades. Il savait qu'il avait ressuscité les morts. Il savait qu'il avait nourri les foules affamées, qu'il avait fait du bien autour de lui. Et les gens disaient, mais comment est-ce possible? Si Dieu est avec lui, Mais comment peut-il finir comme ça? Ça avait l'air d'une terrible malédiction. Ne pensez-vous pas? Hein? Et finir comme cela, rejeté par son propre peuple, c'était un signe de malédiction. Et en plus, sur une croix, sur un bois, comme ça, entre ciel et terre, alors que la Bible disait « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Eh bien, de cette malédiction, Dieu en a fait la plus grande bénédiction qui soit. N'est-ce pas merveilleux? À cause de cette malédiction, à cause de la croix, vous et moi aujourd'hui, nous pouvons être sauvés. Et je dis merci Seigneur pour la croix, merci Seigneur pour le prix que tu as payé, pour le sang qui était répandu. Ça, c'est le Dieu que nous servons ce soir. N'est-ce pas vrai? Est-ce que c'est vrai le même Dieu? Gloire à Dieu. Donc, si vous aimez le Seigneur, que le Seigneur vous aime, quoi qu'il vous arrive, eh bien, ne vous lamentez pas, ne vous prenez pas en pitié, gardez vos yeux sur le Seigneur Jésus. Restez tranquille, restez humble, attendez. Dieu va s'en occuper. J'aime ça. Il l'a fait tellement de fois dans ma vie et certainement dans votre vie aussi. Est-ce qu'il l'a fait pour vous? Qu'il a pris des situations difficiles, inextricables et tout cela. Et Dieu a mis sa main et ouf, il y a un renversement des situations. Et tout à coup, c'était la gloire, c'était merveilleux, c'était formidable. Ça, c'est notre Dieu qui nous aime et qui est tout puissant et qui fait de grandes choses pour nous. Donc, pendant ces quelques jours d'anniversaire de votre communauté, de notre rassemblement, eh bien, soyons pleins de reconnaissance pour Dieu. Aimons-le encore plus que jamais auparavant. Il est vraiment bon, il est vraiment merveilleux. Et ce que vous allez voir et entendre, vous allez voir et entendre des choses que vous connaissez déjà. Donc, ne soyez pas inquiets, ça sera des choses très simples, très très simples. Et je dis encore une fois, je pense que les enfants pourront les comprendre. Et je crois que le plus grand compliment que j'ai pu recevoir en tant que prédicateur, c'est lorsqu'un enfant m'attendait à la sortie de la réunion en me disant « Frère, j'ai compris ce que vous vouliez dire. » Je dis « Oh, merci Seigneur, ça me plaît. » Donc, vous qui êtes peut-être beaucoup plus intellectuel ou peut-être beaucoup plus intelligent comme ça, donc pardonnez-moi si peut-être mon message est des fois très simple ou peut-être trop simple, mais je le fais aussi parce que je veux être un homme simple et j'aimerais que les gens les plus simples et que même les enfants eh bien, puissent comprendre l'amour de Dieu, le plan de Dieu, la rédemption du Seigneur, et que ça les encourage en pensant, mais c'est aussi pour moi. Je ne viens pas à l'église juste parce que papa, maman viennent là, mais il a aussi quelque chose pour moi personnellement. Est-ce que vous pensez ça, les enfants? Vous le croyez? Hein? Qu'il y aura peut-être quelque chose spécialement pour vous pendant ces réunions? Donc, merci d'être là encore, et puis merci de me soutenir aussi dans la prière. Et que Dieu puisse vraiment nous aider. Je crois qu'on a tous besoin de plus du Seigneur Jésus, n'est-ce pas vrai? Hein? J'aimerais pendant ce week-end encore grandir spirituellement, m'approcher encore plus du Seigneur Jésus et puis sentir plus sa présence et pouvoir l'aimer encore plus, pouvoir lui faire encore plus plaisir. Donc, je prie que Dieu nous parle encore et puis c'est pour cela que je remercie frère Franck et sœur Sandrine. Oui, je vois sœur Sandrine, frère Franck, où est-ce qu'il est, frère Franck? Ah voilà, ça y est, d'accord, très bien. Donc, ils ont fait un super bon travail cet après-midi. J'avais envoyé un petit plan, frère Michel, pour fabriquer ces deux montants. Donc, ce ne sont pas des instruments de torture, frère Michel. Non, non, tranquillise-toi. Ça sera simplement pour que vous puissiez visualiser quelque chose. Vous savez, des fois, nous prédicateurs, on parle, et puis des fois, je suis aussi un prédicateur intarissable. Hein? Donc, je n'arrive pas à m'arrêter. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qu'il faut, c'est que quand la réunion est finie, que vous repartez chez vous, il y ait quelque chose qui reste dans votre cœur. Et je bénis Dieu parce que c'est vraiment étonnant. Et je dis, c'est Dieu. C'est pas moi, c'est Dieu qui fait cela. Il y a des personnes dans différents pays qui, 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, peut-être même plus, je ne sais pas, peut-être même certains, même 40 ans peut-être, comme ça, me disent, frère, je me souviens encore de ce que tu as prêché. Ça, c'est Dieu. Ce n'est pas une question de mémoire, c'est quelque chose qui s'est gravé quelque part. Mais pour que ça puisse se graver, ça doit être compréhensible, ça doit être simple, ça doit être pratique, ça doit être applicable. Si c'est seulement dans la tête, juste une pensée comme ça, bon ben c'est abstrait. Mais il faut que ce soit quelque chose avec lequel on puisse s'identifier. Et là, ça s'enracine, ça croche. Donc, c'est pour ça que Dieu m'a inspiré d'utiliser ces supports pour que vous puissiez visualiser des choses toutes simples qu'on voit dans la Bible, qu'on voit dans le message de l'heure. Et quand on voit cela, en tout cas, moi, ça fait quelque chose pour moi. Donc, je vais habiller maintenant ces deux montants, comme ça. On va d'abord lire quelques passages de la Bible, bien sûr. Mais donc, ce soir, on essaie de prendre un petit peu contact. Peut-être que certains, c'est la première fois qu'on se voit, je ne sais pas, mais ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous. Et puis, moi, je m'attends à quelque chose pendant ce week-end. Je crois que quand on met du temps à part pour Dieu, et comme frère Michel le disait, ou frère Philippe me l'a dit aussi, bien, nous avons prié pour ce week-end, nous avons prié pour ces réunions. Je peux vous dire que nous, en Suisse aussi, nous avons toutes les semaines, dans plusieurs lieux, des réunions de prière, dans différents foyers, et nous avons prié aussi pour ces réunions ici à Lamblard. Donc, Dieu est un Dieu qui répond. Hein. Si on prie, si on dit « Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai soif de toi, parle-nous, bénis-nous, encourage-nous », Dieu va le faire. Moi, je crois qu'il va le faire. Vous le croyez avec moi, hein. Je crois qu'il va le faire quelque chose dans la simplicité, dans l'humilité, parce que c'est comme ça que Dieu se manifeste. Eh bien, nous allons lire les Saintes Écritures. Je vous invite à prendre votre Bible et on va lire dans la première épître de Jean. Premier épître de Jean, au chapitre 1er et depuis le verset 1er, s'il vous plaît. 1 Jean, chapitre 1er, verset 1er. Je vois que tout le monde s'est levé, j'apprécie cela. Vous savez pourquoi vous vous levez? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Vous vous souvenez? C'est par respect pour la parole de Dieu. Hein, c'est pour honorer la parole de Dieu. Donc je lis Jean, premier épître de Jean, premier chapitre, premier verset. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Entendu, vu, contemplé, touché. Il y a du concret là, vous ne trouvez pas? Hein? Du tangible, j'aime ça. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, nous avons vu cette vie, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. J'aimerais juste vous faire remarquer qu'il y a un mot qui est revenu plusieurs fois dans ces versets. Avez-vous remarqué lequel c'était? Il y a un mot, un nom, qui est revenu 4 fois dans ces versets. Est-ce que l'un peut me le dire? Il y a peut-être plusieurs, mais il y a un mot que j'aimerais relever spécialement. Il y a parlé de lumière, c'est vrai, mais je pense à un autre. Il y a aussi parlé de parole, mais il y a encore un autre. C'est presque ça, continue. C'est presque ça. Ça commence par C. Voilà. C'est le mot communion. Hein? Communion avec nous, communion avec le Père et avec Jésus-Christ. Communion avec lui, mutuellement communion. Vous aimez la communion? Oh, c'est certainement une question ridicule de ma part. Hein. Pour des gens qui vivent en communauté comme vous, si vous n'aimez pas la communion, alors il y a quelque chose qui ne joue pas. Amen. Mais c'est bon, on a besoin de communion, les uns avec les autres et avec Dieu aussi. Eh bien, prions. Père Céleste, nous sommes réjouis d'être dans ta maison ce soir pour passer ces moments avec toi. Seigneur, nous sommes arrivés au terme de la semaine. Seigneur, nous avons été à l'école, au travail, ici et là. Et Seigneur, ce soir, nous nous retrouvons dans ce lieu, dans une maison de prière. Seigneur, parce que nous voulons être en communion avec toi. Seigneur, nous avons côtoyé toutes sortes de personnes, toutes sortes de choses. Nous avons vu toutes sortes de choses et tout cela. Mais Seigneur, nous avons besoin de nous retrouver en ta présence, à tes pieds, parce que Seigneur, c'est ça que nous aimons. Nous aimons cette sainteté, cette pureté, cet amour, cette douceur qui viennent de toi. C'est pour ça, Seigneur, eh bien, merci pour le rendez-vous que nous avons avec toi ce soir. Et tu honores tes rendez-vous. Tu es toujours présent au rendez-vous. Car tu as dit, si deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est pour cela, Seigneur, sois le bienvenu parmi nous ce soir. Seigneur, je suis avec mon épouse des invités dans cette assemblée, mais Seigneur, c'est toi le grand invité. C'est toi, Seigneur, que nous sommes venus rencontrer. Nous voulons porter nos regards vers toi, Seigneur. Nous sommes des êtres humains avec nos qualités, nos défauts, et nous essayons de nous entraider les uns les autres, mais c'est de toi dont nous avons besoin. C'est pour cela, Seigneur, eh bien, donne-nous des yeux qui te voient. Donne-nous des oreilles qui peuvent entendre ta voix. Donne-nous un cœur qui peut recevoir, croire, comprendre ta parole. Et que nous puissions aussi te toucher avec nos mains, spirituellement, mais aussi physiquement, en te reconnaissant les uns dans les autres. C'est pour cela, Père, eh bien, alors que je me humilie devant toi et devant cette assemblée, devant ce pasteur, eh bien, aide-moi, Seigneur, à être ton instrument, être une bénédiction pour cette assemblée. Et moi aussi, Seigneur, j'ai besoin de plus de toi. C'est pour cela, Père, nous te remettons ces cinq réunions que nous aurons ensemble. Parle-nous encore une fois. Rappelle-nous ces choses tellement bien connues, mais qu'elles deviennent de plus en plus claires pour nous et que nous puissions fortifier, intensifier aussi ces relations, cette communion que nous voulons avoir avec toi. Veuille bénir ta parole, oins-nous, oins-la par le Saint-Esprit, Seigneur, et vivifie-la, Seigneur, et que chacun, Seigneur, tu connais le cœur et les besoins de chacun, mais que chacun puisse vraiment recevoir quelque chose de spécial de toi pendant ce week-end. Vraiment une bénédiction particulière, un renouvellement, un éclaircissement, quelque chose de marquant. Que ce soit non seulement l'anniversaire de la communauté ici à Lamblore, mais que ce soit aussi quelque chose qu'on peut commémorer dans notre vie personnelle. Accorde-le, Père, c'est au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que nous te demandons ces bénédictions et pour ta gloire. Amen. 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 Bien, merci, vous pouvez prendre place, que Dieu vous bénisse. Peut-être pourrions-nous lire encore quelques autres versets, comme ça, ça fait un fondement pour la prédication qui suivra. Si on pouvait lire peut-être dans les Éphésiens aussi. Éphésiens chapitre, je crois que c'est le chapitre 1er. Non, c'est chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 7 à verset 10. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est écrit, « Étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. » Simplement pour garder ça très simplement, retenez ces deux mots. Il est descendu, il est monté. Descendre, monter. Donc on va beaucoup parler de cela. Descendre, monter. Quelque chose de très très simple. Lisons encore un autre passage dans l'Ancien Testament. Ce sera peut-être un petit peu plus difficile à trouver. C'est dans le prophète Osée. Alors, on va essayer de trouver cela. Donc, Osée, ça se trouve après Daniel. C'est peut-être plus facile de trouver le prophète Daniel, mais juste après, il y a le livre de Osée, au chapitre 11 et au verset 4. Osée, chapitre 11, verset 4. Un verset, certains mots que vous connaissez, mais qui est un petit peu spécial quand même. Avez-vous trouvé Osée juste après Daniel? Osée. Je vous laisse le temps de chercher, j'apprécie que plusieurs aient pris leur Bible avec eux. Je crois que c'est important que vous puissiez aussi voir où la Bible dit certaines choses. C'est notre absolu, la parole de Dieu. Osée chapitre 11, verset 4. C'est Dieu qui parle. Il dit, je les tirerai avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Dans une autre traduction, qui est celle de Darby, il est dit, je les tirerai avec des cordes d'homme, avec des liens d'amour. Bon, bien connaissez ce passage, l'ont déjà lu avant, ça vous dit quelque chose, hein? C'est un beau passage, comme ça, Dieu dit, je les ai tirés, hein, tirés vers moi. Avec des cordes d'homme ou avec des liens d'amour et tout cela, donc des cordages d'amour. Remarquez, des cordages, pas une corde, des cordes. Donc, on va parler de cela aussi. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi nous lisons ces versets. Et lisons encore un verset dans Ecclésiaste. Ça, c'est un petit peu plus en arrière, Ecclésiaste chapitre 4. Donc, vous avez les psaumes, les proverbes. Psaume, proverbe, et puis après, voilà, c'est juste après proverbe, psaume, proverbe, Ecclésiaste, chapitre 4 et le verset 12, Ecclésiaste 4, 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Maintenant, ça c'est la partie importante. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. La corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Alors j'ai apporté deux, trois petites choses de la Suisse avec moi. J'ai apporté un bout de corde en nylon, comme cela. Parce que j'ai beaucoup utilisé cette corde pour parler de quelque chose de très simple, mais d'un petit peu abstrait. Mais maintenant, en utilisant une corde, enfin plusieurs cordes, certainement que même les enfants, vous allez très très bien comprendre ce que la Bible dit. Donc là, il est dit une corde à trois fils. Maintenant, cette corde-là, eh bien, elle a peut-être des centaines de petits filaments très très fins. Là, je l'ai un petit peu défaite au bout, mais vous voyez qu'elle est formée d'une torsade, d'une multitude de petits filaments qui sont tressés les uns avec les autres et tout cela. Et c'est ce qui fait la solidité de cette corde, c'est cette multitude de petits filaments qui sont encore plus fins que des cheveux, très très fins. Maintenant, si je prends l'un d'entre eux, eh bien, il est solide, mais j'arrive à le casser, un de ces petits filaments. Mais maintenant, lorsque ce petit filament est tressé avec d'autres filaments, qui sont tressés avec d'autres filaments et tout ça. Donc il y a plusieurs, vous voyez, il y a plusieurs tresses, hein, vous pouvez regarder ça même. Il y a des tresses extérieures et il y a aussi même une tresse intérieure. Donc c'est comme s'il y avait une corde dans la corde. Hein, vous pourrez même regarder après. C'est ça qui fait la solidité de cette corde de nylon qui fait, disons, à peu près 1 cm de diamètre, pour ceux qui ne la voient pas. Et maintenant, cette corde, eh bien, je défie quiconque de la casser en tirant dessus. Vous êtes d'accord, hein? Elle n'est pas très grosse, mais elle est quand même très, très solide. Parce qu'elle est composée d'une multitude de petits filaments. Donc, ça prouve que ce que la Bible dit est vrai. Une corde à trois fils, mais ça, c'est des centaines de fils, eh bien, ne se rompt pas facilement. Maintenant, une corde, ça peut servir à beaucoup d'usages. On peut attacher quelque chose avec ça. On peut faire toutes sortes toutes sortes d'utilisations. Maintenant, malheureusement, eh bien, certains parfois utilisent mal une corde. Rappelez-vous, dans la Bible, eh bien, il y a un homme dans la Bible qui a été lié par des cordes. Vous vous souvenez comment il s'appelle? Pardon? Judas? Non, ce n'était pas Judas. C'était un homme qui était très, très fort. Et puis, pour l'empêcher d'agir, eh bien, on l'a ficelé. Hein? Voilà, c'était Samson. Hein? Plusieurs fois, on a voulu attacher Samson avec des cordes, certainement encore plus solides que celle-ci, plus grosses que celle-ci. Mais quand l'Esprit de Dieu était en lui, il était tellement fort qu'il brisait chaque fois les cordes. Mais ce que les Philistins voulaient, c'était lui enlever sa puissance, parce qu'ils n'aimaient pas cet homme qui était avec Dieu, mais qui luttait contre les Philistins pour libérer Israël. Donc, ils voulaient à tout prix se débarrasser de lui. Ils ont dit, mais on va le lier, on va l'attacher. Et chaque fois, il brisait les cordes, parce qu'il avait la puissance de Dieu en lui. Donc, c'est un mauvais usage pour les cordes. On a même utilisé des cordes avec le Seigneur Jésus aussi, hein, pour le lier. Donc, même une corde, ça vous le savez peut-être aussi, que certains l'utilisent même pour se pendre. C'est triste, mais c'est une mauvaise utilisation de la corde. Mais maintenant, une corde, ça peut être aussi une corde de sauvetage. Hein. Quelqu'un est en train de se noyer, qu'est-ce qu'on fait? On lui lance une corde, ouf, comme ça. Et la personne attrape la corde, et puis on peut tirer la personne hors de l'eau. Ça devient une corde de salut. Une même corde peut avoir plusieurs utilisations. Et quand le diable utilise des cordes, c'est pour lier les gens, les asservir à sa volonté, hein, qu'ils puissent les dominer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, il y a bien des gens qui sont liés, hein, par différents vices, par différentes habitudes, par différents comportements. Ils sont liés par des cordes diaboliques. Mais Christ est tout puissant, il peut briser ces cordes. Hein, parce que Jésus a dit, je suis venu pour libérer les captifs. Mais maintenant, quand Dieu utilise une corde, eh bien, comme nous l'avons lu, ce sont des cordes d'amour. Avec ces cordes, eh bien, Dieu nous tire vers lui. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, le diable, lui, il veut nous lier pour qu'on ne puisse plus faire ce que nous voudrions faire, qu'on ne puisse faire que ce que lui, le diable, veut que l'on fasse. Donc ça, c'est très mauvais. Mais Dieu a donné à l'homme, dès le commencement, le libre arbitre. Il a fait de nous des êtres libres. Vous savez cela, n'est-ce pas? Hein? On peut choisir, on peut faire des choix. C'est un privilège que Dieu nous a fait, qu'on peut bien utiliser ou mal utiliser. Mais maintenant, quand Dieu veut nous attirer vers lui, eh bien, il nous lance la corde. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Nathanaël. Ah, ça c'est un beau prénom. Est-ce que tu serais d'accord de m'aider un petit peu ce soir? Hein? Et tu peux te lever et puis tenir un bout de la corde ici, hein? Le bout qui pend, tu peux le tenir comme ça, en bas, voilà, comme ça, voilà. Donc maintenant, eh bien, pour Nathanaël, moi je représente Dieu, comme ça. Et Dieu, est-ce que vous croyez que Dieu aime Nathanaël? Oh, c'est sûr, tu crois que Dieu t'aime? Ah, tout à fait, c'est sûr. Donc, qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut tirer Nathanaël vers lui. Hein? Donc, il tire sur la corde, il tire. Hein? Donc, Dieu tire d'un côté et Nathanaël tient de l'autre côté. Mais remarquez bien ceci. Nathanaël, à tout instant, s'il le veut, il peut lâcher la corde. N'est-ce pas vrai? Donc, moi, je tire. Non, lâche la corde. Lâche. Voilà. Nathanaël est libre de tenir la corde ou de lâcher la corde. Ça, c'est important. Dans notre relation avec Dieu, eh bien, Dieu tient la corde d'un côté, nous tenons la corde de l'autre côté. Mais à tout instant, nous avons le droit, la possibilité de lâcher la corde. Certains le font malheureusement, mais c'est leur droit. Ils ont ce choix-là, cette possibilité-là de lâcher la corde. Mais est-ce que tu penses que c'est bien de lâcher la corde?
Non.
Non, c'est pas bien.
Non, oui.
Et toi, qu'est-ce que tu veux faire?
La corde, qu'est-ce que tu veux faire? La tenir.
Voilà. Pendant combien de temps?
Tout le temps.
Tout le temps. Toute ta vie?
Oui.
Ah, est-ce qu'il a bien compris la Bible? Amen. Amen. C'est aussi simple que ça. Et vous, les autres enfants, vous voulez aussi prendre l'autre bout de la corde? Hein? Certains mots, vous l'avez peut-être déjà fait, mais maintenant, même à 8 ans. Il l'a fait pour moi, pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas pour vous aussi? Hein? Eh bien, il vous tend la corde et vous dit, je ne connais malheureusement pas tous vos prénoms, je ne les ai peut-être pas retenus, mais voilà, je t'aime, tiens, voilà, prends un bout de la corde, hein, comme Nathanaël, c'est lui qui vous représente, donc maintenant, Nathanaël, je t'aime, voilà. Est-ce que tu veux prendre cette corde? Vous voyez cela? Et maintenant, Dieu tire d'un côté. Est-ce que Dieu veut faire du mal à Nathanaël? Non, Dieu ne peut pas faire du mal à quelqu'un, il ne peut faire que du bien. Hein? Donc Dieu ne peut et ne veut faire que du bien à Nathanaël. Mais pour cela, il faut que Nathanaël tienne son bout de la corde. Hein? Dieu veut lui faire du bien, mais si Nathanaël dit « Non, non, moi je veux faire autre chose, ça ne m'intéresse plus », il a le droit de lâcher la corde et Dieu ne va pas le forcer. Le prophète de Dieu, frère Branham, a dit « Nous ne croyons pas dans une religion forcée. » On ne force pas les gens à croire. On ne force pas les gens à obéir à la Bible. Ça doit venir du cœur. Chacun doit se sentir libre. Ça, c'est important. Parfois, les gens pensent « Mais vous êtes autoritaire, vous êtes légaliste et tout cela. » Si c'est l'impression qu'on donne, eh bien, on a mal présenté l'Évangile. Non, Dieu a fait que les êtres humains soient des êtres libres, libres de faire leur propre choix. Mais Dieu, eh bien, nous donne des conseils. Dieu dit « Je te conseille ceci, je te conseille cela. » Mais libre à nous de suivre ses conseils ou pas. Mais maintenant, si on suit ses conseils, eh bien, on s'en porte beaucoup mieux. N'est-ce pas vrai? Donc là, Nathanaël, il tient la corde, ça c'est très bien. Et le titre des prédications que je vais vous apporter pendant ces 5 réunions sera celui-ci, « Relation au pluriel et position au pluriel ». Relation et position. Maintenant, peut-être que pour Nathanaël ou les autres enfants parmi nous, relation, position, ça paraît un petit peu abstrait. Hein? Une relation, tu saurais expliquer ce que c'est qu'une relation?
C'est une amitié. C'est une amitié.
Voilà, c'est juste. C'est une amitié, oui, d'accord. Peut-être autre chose encore.
C'est
ça, c'est bien, c'est très bien. Une amitié, ça, c'est très, très beau. Tout à fait. Et donc, pour que ce soit moins abstrait, eh bien, je dirais qu'une relation, c'est comme une corde qui lie deux personnes. Il faut être deux, au minimum, pour établir une relation. Vous êtes d'accord? Hein? Vous ne pouvez pas avoir une relation avec vous-même. Disons, il faut que ce soit deux personnes séparées. Et comme nous l'avons lu dans la première épître de Jean, eh bien, Dieu aime la communion. Hein? Dieu est un Dieu sociable, Dieu est un Dieu de l'unité, de l'harmonie, de la paix, tout cela. Donc, il veut avoir des relations avec nous. Donc, c'est ça que j'aimerais partager avec vous. Donc, nous allons parler de nos relations avec Dieu et de nos relations les uns avec les autres. Donc là, vous verrez, c'est quelque chose de très concret qu'on peut vivre tous les jours, à la maison, dans la communauté, à l'école, au travail, avec des gens qui croient, avec des gens qui ne croient pas. Tous les jours, la vie d'un être humain est faite de relations. Sauf, bien sûr, si on vit tout seul sur une île déserte. Là, bien sûr, ça sera difficile de parler de relations avec d'autres êtres humains. Mais on peut quand même avoir une relation avec Dieu, ça c'est sûr. Bon, peut-être je vais te laisser. Allez, retourne à ta place pour le moment, Nathanaël. Merci beaucoup. Et puis peut-être j'aurai besoin de toi ou de quelqu'un d'autre un peu plus tard. Mais juste que vous compreniez cela. J'ai de nombreuses citations ici, mais pour pas peut-être trop allonger. Vous avez une montre quelque part? Il faut que je vais juste enlever peut-être ma montre comme ça, parce que c'est juste ce soir un petit peu pour se mettre un petit peu en route. Voilà, je vais juste mettre ça comme ça. Vous savez, pour bien comprendre ce qui arrive aujourd'hui, c'est toujours bon de retourner au commencement. Il y avait un moment où Dieu était tout seul. Il était cet esprit éternel qui existe par lui-même. Il n'y avait rien du tout autour de lui. Il n'y avait pas de terre, il n'y avait pas de soleil, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait pas d'animaux, il n'y avait pas de... Il était tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. Il était ce grand esprit qui n'a ni commencement ni fin. Il était Dieu. Il n'était même pas dans la position de Dieu, mais il existait tout seul par lui-même. Mais en lui, il y avait un désir, un besoin de communion, d'avoir un échange, des relations avec quelqu'un d'autre. C'était en lui, parce que Dieu est un Dieu de communication, un Dieu de communion. Et c'est pour cela que quelque chose est sorti de ce grand esprit éternel que la Bible appelle la parole. En grec, c'est le mot logos, qui est aussi le Fils de Dieu. Et ce n'est pas une autre personne, c'est simplement ce Dieu-Esprit sous une autre forme. Et au travers de la parole, au travers du Fils de Dieu, c'est ce que la Bible dit, Dieu a créé toutes choses. Il a créé les anges, il a créé l'univers, il a créé la terre, il a créé les plantes, il a créé les animaux, il a créé les êtres humains. Mais pourquoi est-ce que Dieu a fait tout cela? Parce que Dieu avait soif de communion. Sais-tu pourquoi tu existes aujourd'hui? Eh bien, Dieu nous le dit dans sa parole. C'est parce qu'il a besoin de communion avec chacun d'entre nous. Il veut avoir un échange, un partage avec nous. Et Dieu souhaite être relié avec chacun d'entre nous. Pas par une corde, par des cordes. Simplement des relations fortes, des relations solides. Donc on va parler un petit peu de tout ça pendant ces réunions. Vous verrez, c'est très très simple, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça, on peut parler de toute la Bible, du commencement à la fin, juste avec cette petite présentation que vous verrez et tout cela. Ça permet de visualiser le plan de Dieu d'une façon très très simple. Dieu désire cela, avoir communion. Et au moment où Dieu a pu créer l'homme, eh bien, il a pu commencer à communier avec lui. Comme Adam, au départ, il était tout seul. Il était le seul être humain que Dieu a créé. Il n'a pas créé un homme et une femme au départ, il a créé seulement un homme, appelé Adam, qui était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais vous savez que la Bible dit que Adam a donné des noms à tous les animaux que Dieu avait créés. Puis une fois qu'ils ont tous eu défilé devant lui, il a regardé, il n'y avait plus d'animaux, et lui, il a vu qu'il était seul. Tous les animaux étaient par paire, un mâle, une femelle, un mâle, une femelle. Mais Adam, il a regardé, et lui, il était tout seul. Il y a des gens qui aiment être seuls, qui aiment la solitude. On a tous besoin de moments de solitude, mais quand on est toujours tout seul, tout seul, tout seul, pour moi, ça devient difficile. J'ai besoin de communiquer, j'ai besoin d'avoir des échanges avec d'autres. Je crois que c'est quelque chose que Dieu a placé en nous, qui est inné, ce besoin d'avoir d'autres personnes, une communauté, une famille, une église ou quelque chose comme cela. On a besoin de ces choses-là, n'est-ce pas vrai? Et je crois que l'expérience que vous vivez, vous voyez tous les jours comme ça, eh bien, ça satisfait ce besoin de partage, ce besoin d'échange, ce besoin de communion. Je crois qu'on a besoin de cela. Donc Adam, il était tout seul, et puis il ne pouvait communier avec personne si ce n'est avec Dieu. Et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Et Dieu a plongé Adam dans un profond sommeil, et pendant qu'Adam dormait, il a sorti de lui une partie, la partie féminine de lui, qu'il a placée dans un autre corps séparé. Et quand Adam s'est réveillé de ce profond sommeil, il a vu devant lui la plus belle des créatures. Il a dit, mais elle est chair de ma chair, elle est eau de mes os, on l'appellera femme. Mais qui était cette personne? Elle était une partie de lui. Elle était avant en lui, et Dieu l'a sortie de lui et l'a mise dans un corps séparé. Et depuis ce moment-là, Adam a pu avoir communion avec Ève. Et ceux d'entre nous qui sommes mariés maintenant, eh bien c'est une grâce de Dieu d'avoir un partenaire, un conjoint ou une conjointe avec qui on peut avoir communion, on peut avoir un échange. Ça m'est arrivé parfois de faire des voyages missionnaires, et de me retrouver dans un pays étranger, j'étais tout seul comme cela, et puis j'ai dû passer peut-être une nuit à l'hôtel, je me souviens une fois j'étais à Nairobi au Kenya, et j'ai dû passer une nuit à l'hôtel avant de prendre la correspondance, et puis j'étais bien, un bel hôtel, la bonne nourriture, mais j'étais assis seul à ma table, je dis, mais il me manque quelque chose. J'aurais voulu pouvoir partager mes impressions, tu as vu l'endroit, tu as vu la nourriture, tout cela, mais j'avais personne avec qui parler. Et ça, juste un jour comme ça, ça m'a pesé, un manque de communion. Donc, c'est le plan de Dieu d'avoir communion avec chacune de ses créatures et que ces créatures aient communion les uns ou les unes avec les autres. C'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Donc, si on peut accomplir cela, eh bien, Dieu sera heureux et nous serons heureux aussi. On va maintenant commencer à utiliser ces deux petits montants ici, comme ça. Alors, je vous montre ici une reproduction. Ça vous dit quelque chose? Voilà. Alors pour ceux qui ne voient pas, je tiens un carton sur lequel j'ai collé la reproduction de la peinture de Christ par le peintre Hoffmann. Ça fait partie d'une grande peinture qui représente Jésus et le jeune homme riche. Et puis ça, c'est une partie seulement de cette grande peinture. Je crois que c'est une grande peinture murale. Et on a fait un extrait qui représente juste la tête, le buste du Seigneur Jésus. Donc, pour représenter le côté de Dieu, j'ai choisi cela, donc, puisqu'on sait que Jésus est Dieu, donc je vais utiliser cela pour un côté. Voilà, ça ferait Franck, hein, sœur Sandrine, ça va super bien. Il m'a fait une petite fente là en haut, juste la bonne épaisseur, tout ça, ça va très très bien. Maintenant, de l'autre côté, qu'est-ce qui est écrit là sur le petit panneau? Moi, M-O-I. Donc, c'est chacun d'entre nous. Ce moi, ça peut être François, ça peut être Michel, ça peut être Suzanne, ça peut être Michel, etc., etc. Ça peut être Philippe, Marie, Claude, Claire, etc. etc. Quelques prénoms que j'ai entendus aujourd'hui, ou Franck, ou Sandrine, etc. Donc, ça c'est moi, ça peut être Nathanaël, les enfants, chacun. C'est moi, d'accord? On va mettre le petit panneau moi sur l'autre petit montant, le petit poteau en bois. Extra. Maintenant, regardez tout ce que j'ai apporté depuis la Suisse là. J'ai une douzaine de bouts de corde de nylon, comme celle de tout à l'heure, avec une boucle à chaque extrémité. Et ces cordes font à peu près, je crois, 1 mètre 20 de long, comme ça. Donc j'en aurais besoin pour illustrer la prédication. Donc maintenant, disons que moi, c'est Adam. Revenons au commencement, c'est Adam et Ève. D'un côté, il y a Dieu, d'un côté, il y a un homme et une femme. Maintenant, Dieu va avoir une relation avec eux. Voilà pourquoi il les a créés. Hein? Ce n'est pas simple pour dire, moi je suis là, vous êtes là-bas, et puis ça reste comme ça. Non, Dieu nous a créés, depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, pour qu'on puisse communier avec lui, qu'on puisse avoir des relations avec lui. Beaucoup de relations avec lui. Donc, il y a une corde qui part maintenant. Ah oui, c'est ça que... voilà, il y a encore quelque chose qui manque. Voilà, il y a encore d'autres petites choses que je vais rajouter à cela. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de croire les choses comme je les crois. Hein. Disons, encore une fois, vous avez la liberté de conscience, la liberté de religion ou de foi. Je vous présente simplement ma manière de comprendre la Bible et le message, d'une façon très simple. Maintenant, si vous pensez que c'est juste, eh bien, vous pouvez le croire. Si vous pensez que je me trompe, eh bien, mettez-le de côté. Si vous pensez que vraiment je suis dans l'erreur, venez m'en parler, aidez-moi. Je ne suis pas un absolu. La parole de Dieu, la Bible, le message, ça, c'est notre absolu, mais nous sommes des êtres humains et Dieu a besoin de se révéler à nous. Donc, Dieu m'a montré cela et peut-être que vous serez d'accord avec cela, que quand on parle de relation, c'est pas simplement comme on l'a fait tout à l'heure avec Nathanaël. Un tient le bout de la corde, l'autre tient l'autre bout de la corde. Donc, reviens ici, Nathanaël. Voilà, on va encore... voilà, tu montes sur l'estrade. Voilà. tu tiens un bout de la corde, je tiens l'autre bout. Donc on a dit la corde représente une relation. Hein. Tu peux reculer un tout petit peu, recule un petit peu, voilà, comme ça on tend un petit peu la corde. Voilà. Ça c'est une relation entre un garçon de 10 ans, c'est juste, et un frère, un monsieur de 59 ans, bientôt 60, d'accord ? Deux êtres humains, deux hommes, un petit, un plus grand, d'accord ? Donc ça c'est une relation, d'accord. Mais maintenant, nous sommes deux êtres humains, mais il y a quand même quelques différences entre nous deux, vous êtes d'accord ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a comme différence d'après vous ? Pardon ? La cravate. C'est vrai, Nathanaël n'a pas encore sa cravate, ça pourra venir un jour. Mais à part la cravate, qu'est-ce qu'il y aurait comme différence ? Les cheveux blancs, voilà. Ça c'est vrai, mais pourquoi est-ce que moi j'ai des cheveux blancs et lui pas ? Est-ce que tu sais ? Voilà, parce qu'un est plus vieux que l'autre. Et puis malheureusement, quand on vieillit, eh bien, les cheveux changent de couleur. Ils deviennent gris, et puis après ils deviennent blancs, puis après peut-être on les perd aussi. Donc, ça montre qu'il y a une différence d'âge. Et disons, à cause de la différence d'âge, est-ce que Nathanaël et moi, nous sommes sur un plan d'égalité ? Donc, il y a, nous sommes les deux des êtres humains, on est d'accord. Donc, c'est un être humain, je suis un être humain, de ce côté-là, égalité, d'accord ? Maintenant, lui est un garçon, moi aussi je suis un garçon, un peu plus âgé, d'accord ? Mais on est deux garçons, d'accord ? Ça c'est aussi égalité. Mais on a vu tout à l'heure qu'il y a une différence d'âge. Donc lui a 10 ans, moi j'en ai 59. Donc là, c'est plus égalité. Vous êtes d'accord ? Alors, vu la différence d'âge, est-ce que je suis à ce moment-là au même niveau que lui ? Ou bien non ? À quel niveau suis-je par rapport à lui ? Est-ce que je suis plus bas que lui ? On a vu que je ne suis pas au même niveau parce qu'il y a une différence d'âge. Donc, suis-je plus bas ou suis-je à un niveau plus élevé ? Voilà. Ça ne fait pas de moi un être supérieur, c'est simplement une différence de position. Hein ? Ma position est différente de sa position. Voilà, donc vous avez déjà compris, merci Nathanaël. On va peut-être montrer quelque chose de plus. Si je faisais venir maintenant le frère Michel jusqu'ici, votre pasteur, eh bien, il y aurait... C'est pas obligatoire, mais c'est facile à comprendre. On verra si... Eh bien, ce sont deux êtres humains, frère Michel et moi. Nous sommes deux hommes, nous avons pratiquement le même âge aussi, n'est-ce pas ? Mais au niveau position, ça ne sera pas la même chose qu'avec Nathanaël, vous êtes d'accord ? Vu, disons, qu'on a pratiquement le même âge. Donc, tout ça pour dire que je crois pouvoir dire que dans les relations et qu'on regarde l'autre personne, il y a une différence de position. Alors, certains sont en position de supériorité. Voilà. On peut avoir une relation d'égalité ou alors d'infériorité. Donc avec Nathanaël, dans bien des domaines, nous sommes en position d'égalité, mais dans d'autres domaines, eh bien, lui, de par la différence d'âge, est inférieur à moi. Parce que, disons, j'ai une autre position que lui. Donc maintenant, si on prend Dieu et Adam, quand on parle de Dieu, quand on utilise le terme Dieu, est-ce que pour vous, Dieu, à quel niveau placez-vous Dieu ? Est-ce que Dieu, vous êtes ici, là ? Est-ce que Dieu est au même niveau que vous ? Est-ce qu'il est inférieur à vous ou est-ce qu'il est supérieur à vous ? Supérieur ? Vous pensez ça aussi, les enfants ? Oui ? Combien sont d'accord que Dieu est supérieur à nous ? Je crois que c'est assez clair, assez évident. Hein ? Mais juste pour vous montrer, c'est simple, c'est pas compliqué, c'est vraiment simple. Donc, on va faire partir la corde de la relation depuis le crochet supérieur. Voilà, donc maintenant, on pourrait mettre du côté d'Adam tout en bas, le crochet, il y a donc trois crochets, donc à trois niveaux différents, qui représentent supériorité en haut, égalité au milieu, infériorité en bas. Mais pour simplifier par rapport à ce qui vient après, je mets cela au deuxième crochet. Donc là, vous voyez très bien que ça part du crochet supérieur du côté de Dieu et la corde descend du côté d'Adam, de l'homme ou de nous, dans une position inférieure. Donc Dieu voulait faire comprendre à Adam, eh bien, j'aimerais être ton Dieu. Combien savent que ce que veut dire le mot Dieu, hein? C'est quoi Dieu? Exactement. Le mot Dieu veut dire un objet d'adoration. Et ça, c'est vrai pour toutes les religions, pas seulement pour le christianisme. Quand quelqu'un dit j'ai un Dieu ou j'ai des dieux, ça veut dire que l'être qu'on considère comme Dieu est notre objet d'adoration. Donc, on va l'adorer. Et plus que cela, lorsque quelqu'un, et j'ai vu ça dans différentes religions, et il y a des gens sincères dans toutes les religions, qui sont vraiment sincères, convaincus et pratiquants. Eh bien, avez-vous remarqué cela, que quelle que soit la religion, christianisme, mais toutes les autres religions aussi, quand quelqu'un est convaincu que sa religion est la bonne, et que le ou les dieux qu'il vénère sont vraiment les vrais dieux pour lui, n'est-ce pas vrai que la personne va donner tout ce qu'elle a, ce Dieu-là, non? Elle va offrir tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a, hein? Elle donne le meilleur à ce ou à ces dieux. N'est-ce pas vrai? Si la personne ne fait pas cela, alors c'est simplement des paroles, la personne n'est pas vraiment sincère, n'est pas vraiment convaincue. Mais dans toute religion, quand quelqu'un est convaincu que telle chose ou tel être est son Dieu, eh bien, il n'y a pas besoin de pousser ou de tirer. La personne dit, c'est mon Dieu. Les autres disent, tu as raison ou tu as tort. La personne est convaincue, elle donnera tout. Elle donnera même sa vie pour ce Dieu-là. Ça, c'est un signe d'une vraie adoration. Quand on reconnaît quelqu'un comme son Dieu, on est prêt à tout lui donner. Volontairement, on donne le meilleur qu'on a. Le meilleur qu'on ait, son temps, son énergie, son argent, sa vie, ce qu'on a de plus cher, on le donne, on l'offre. C'est un plaisir de faire cela. On apporte à ce Dieu-là un sacrifice, mais c'est volontaire, c'est de bon cœur. C'est un signe qu'on est un adorateur. Donc, c'est ce que Dieu attend de nous aussi, qu'on lui donne le meilleur de ce que nous avons, le meilleur de ce que nous sommes. Le prophète de Dieu disait ceci souvent. Nous devrions donner à Dieu, à celui que nous reconnaissons comme Dieu, nous, chrétiens, le Seigneur Jésus-Christ, on devrait lui donner la première place. La première place. Pas la deuxième, troisième, quatrième ou dixième place. Si vraiment on confesse qu'il est notre Dieu, Jésus, tu es mon Dieu. C'est pour ça que ce que vous voyez là, ce n'est pas simplement au niveau de l'enseignement. C'est sûr, une sorte d'enseignement, c'est didactique, mais j'aimerais que ça soit traduit par quelque chose de réel, de pratique. Et pour chacune de ces relations que Dieu veut avoir avec nous, eh bien, chaque relation a certaines caractéristiques. Et chaque relation a différentes caractéristiques, comme nous allons le voir aussi. Mais je ressens le besoin dans ma propre vie, eh bien, de travailler pour améliorer chacune de mes relations. Si maintenant je dis, oh, Jésus, tu es mon Dieu, je veux comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Il y a quelque chose derrière ce que je dis. Ça, il y a bien des gens dans toutes les langues, même en français, « Oh mon Dieu !» C'est une forme d'exclamation. Ils ne croient pas en Dieu, pour Dieu n'est rien. C'est juste une expression, il y a une émotion. « Oh mon Dieu !» Mais ça ne veut rien dire, il n'y a rien derrière. Hein? Il n'y a pas une vie derrière, il n'y a pas une adoration derrière, il n'y a pas un don de soi derrière. C'est juste une expression vide de sens. Mais pour vous et moi, ce que Dieu voudrait, c'est que si on dit « mon Dieu », qu'il y ait quelque chose derrière, que ça soit le reflet d'une relation réelle, personnelle, avec celui qu'on appelle Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? On va voir cela, disons, dans l'Écriture. Des choses toutes simples comme ça, mais des fois, les gens, ils utilisent des belles paroles. Hein? Ils disent des choses très belles, très, très, très saintes, très belles et tout cela. C'est merveilleux, les paroles sont merveilleuses, mais souvent il n'y a rien derrière. Il n'y a pas une vie personnel pour confirmer la valeur et l'authenticité de nos paroles. Donc, j'aimerais que chacun puisse dire, mais quand je l'appelle Dieu, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Vous vous rappelez lorsque, après la résurrection du Seigneur Jésus, quand Thomas, qui n'avait pas été à la réunion, la fois où Jésus est apparu à ses disciples dans la chambre haute, il avait manqué la réunion. C'est pas bien de manquer les réunions. Des fois, on manque quelque chose d'important. Mais Jésus était bon. Et il a vu que Thomas avait besoin d'un petit encouragement. Donc, le dimanche d'après, Jésus est revenu parmi eux d'une manière surnaturelle. Il a dit, Thomas, allez, avance-toi. Viens mettre ta main. Viens toucher. Un Dieu tangible qu'on peut toucher. Thomas avait besoin de ça. Enfin, des fois, on critique Thomas. Oh, Thomas, l'incrédule et tout cela. Mais il y a une qualité chez Thomas que j'apprécie. Il voulait une expérience personnelle. Ce que les autres avaient vu, ce que les autres avaient expérimenté, ben, tant mieux pour eux. Mais Thomas a dit, moi je veux toucher. Amen. Eh bien, Dieu a honoré ça dans Thomas, cette foi de Thomas. Il voulait toucher lui-même. Il voulait être convaincu lui-même. Il ne voulait pas d'une religion de seconde main ou d'une foi de seconde main. Il voulait sa propre expérience. Moi j'aime ça. Vous pensez que c'est bon aussi? Pour ça, je vois les enfants ici. Je pense que si vous êtes là, c'est que vos parents sont des croyants. Eh bien, vous avez vraiment, c'est une grâce, j'allais dire de la chance, mais c'est une grâce d'avoir des parents qui croient en Dieu. Mais Dieu voudrait plus encore pour vous. Pas que vous croyez parce que papa croit ou maman croit, mais Jésus aimerait avoir une relation directement avec chacun d'entre vous. Nathanaël, et puis toi, et puis toi, et puis toi. Sans passer par papa et maman. Direct. Hein? Vous voudriez ça? Hein? Et c'est possible. Et puis je vois aussi une jeune fille. Quel âge as-tu, si je peux te demander? 15 ans. Oh là, j'ai cru que tu étais même plus âgée que ça. 15 ans, une adolescente. Ça, c'est bien. Puis je vois derrière aussi d'autres adolescents, je pense aussi, adolescentes. Je peux vous demander votre âge, peut-être? 15 ans aussi. Beau jeune homme de 15 ans. Et la jeune fille à côté? Combien? 11. Ah là là, mais tu fais grande aussi, tout ça. Voici un peu les adolescents parmi nous. Eh bien, Jésus voudrait avoir, depuis les enfants de 8 ans, 10 ans, tout cela, et les adolescents, une relation directe avec chacun d'entre vous, sans passer par papa et maman. Vous me direz, oui, mais je suis encore un enfant. Oui, vous êtes des enfants, mais sur le plan spirituel, sur le plan de la foi, autour de l'âge de 10 ans, eh bien, vous pouvez déjà être conscient du bien et du mal. Moi, j'étais conscient que j'avais cet âge-là, que je faisais le bien ou je faisais le mal. Et j'ai compris que j'avais besoin de Jésus pour changer mon cœur. J'ai besoin d'un sauveur. À cet âge-là, je l'ai compris. Et ça voulait dire que je pouvais déjà, alors j'étais encore avec ma famille, je pouvais déjà avoir une relation directe, personnelle, sans passer par ma maman, ma grand-maman ou quelqu'un d'autre, avec le Seigneur Jésus. N'est-ce pas merveilleux ? Pour la société, vous êtes des enfants, vous êtes des mineurs, vous êtes sous la responsabilité de vos parents, tout ça. Pour la société. Mais pour Dieu, je dis bien pour Dieu, depuis l'âge de 8 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, eh bien, vous êtes déjà des êtres humains à part entière. Déjà à cet âge-là, sur le plan de la foi. Et vous savez que la Bible montre que Dieu a utilisé plusieurs fois des enfants pour faire des grandes choses, des enfants. Les gens, parfois, même de son temps, disaient, « Oh, mais allez, ces enfants-là, laissez le mettre tranquille. » J'ai dit, « Non, 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 laissez venir à moi. » Il aimait les enfants. Il voulait se glorifier au travers des enfants. Vous vous rappelez quand Jésus a pris un jeune enfant, il a dit, si vous ne lui ressemblez. Il a pris un enfant comme modèle pour des grandes personnes, pour des adultes. Voyez-vous ce que Jésus a fait? Vous vous rappelez dans l'Ancien Testament qu'il y avait une fillette d'Israël qui était là chez Naaman, comme bonne, hein, comme servante, une jeune fille, une fillette, et que Dieu l'a utilisée pour témoigner du vrai Dieu à son maître qui avait besoin de guérison, une fillette. Dieu l'a utilisée. Donc ne pensez pas, vous, les enfants qui êtes ici, que vous êtes trop petits, « Oh, ben, je verrai que je suis plus grand. » Non, vous avez l'âge idéal. L'âge idéal pour avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Vous prenez un bout de la corde, lui prend l'autre, et puis vous allez marcher ensemble, il sera avec vous à l'école, il sera avec vous à la maison, il sera avec vous tout le temps. Il sera votre ami, votre conseiller, votre protecteur. Vous pouvez dire, « Oh, mais mon papa est fort, c'est lui qui me protège. » Tant mieux, c'est bien. Mais ton papa n'est pas 24 heures sur 24 avec toi pour te protéger. lui doit aller travailler, toi tu vas à l'école, mais qui va te protéger que ton papa n'est pas à côté de toi? Que Jésus te protège, ou qu'il envoie un ange pour te protéger. Mais tu as besoin pour ça d'une relation personnelle avec Dieu. Ça c'est merveilleux, vous ne trouvez pas? Hein? Que déjà tout jeune, on peut découvrir cette réalité. Je tiens au bout de la corde, Jésus tient l'autre bout, je ne suis pas tout seul, c'est lui qui me conduit, il me dit, bien, fais attention ici, bien, viens plutôt par là. Puis parce qu'on sait qu'il nous aime, on fait ce qu'il nous dit, ce n'est pas compliqué. Et je sais ceci, que chaque fois que j'écoutais sa voix, depuis tout petit, ça marchait bien. Que je voulais faire à ma tête, j'avais problème sur problème sur problème. C'est facile à comprendre. Lui, c'est mieux que quiconque. Il connaît l'avenir. Donc, qu'est-ce que je vais faire demain? Mais lui sait ce qu'il faut faire demain. On dit, Seigneur Jésus, conduis-moi. Montre-moi ce qu'il faut faire. Il le fait. Pensez à l'avantage que nous avons de pouvoir être connectés avec quelqu'un qui sait tout, le passé, le présent, le futur, qui peut tout, à qui rien n'est impossible. Mais qui ne voudrait pas d'avoir un ami intime comme lui? Pensez à cela, pratiquement. Oui, mais c'est le Seigneur, je ne le vois pas, tout cela, mais s'il était en chair et en os à côté de vous, et qu'il est tout puissant, rien ne lui résiste, qu'il a la connaissance parfaite de toutes choses, du passé, du présent, du futur, une grande sagesse et tout ça, mais frères et sœurs, moi j'aimerais être l'ami de cette personne-là. Vous ne pensez pas? Quelqu'un qui est plus fort que tout le monde, tout, n'importe qui d'autre, tous les esprits, mais j'aimerais être sous sa protection. C'est normal. C'est simple, mais c'est tellement bon. Frère Branham a dit ceci dans plusieurs messages. Toute chose que vous mettez entre Dieu et vous, c'est une idole. Donc maintenant, Dieu aimerait avoir la première place. Parce que le premier commandement est celui-ci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est le premier commandement d'après le Seigneur Jésus. Dieu a aussi dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Donc Dieu veut l'exclusivité. Dieu est un Dieu jaloux. Il veut tout notre amour. Il veut être le personnage le plus important de notre vie. Mais très souvent, eh bien, on dit oui, tu es mon Dieu, mais on met quelque chose entre lui et nous. Et ça devient une idole. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être notre travail, ça peut être nos études, ça peut être notre conjoint, ça peut être nos parents, ça peut être nos enfants, ça peut être notre argent, ça peut être notre église, ça peut être beaucoup de choses. Toute chose qui s'intercale entre Dieu et nous, c'est une idole. Et le prophète a dit, débarrassez-vous-en, mettez ça de côté. Ça veut dire redonner à chaque chose sa juste place. Ma femme pourrait être mon idole. Ça ne veut pas dire que je dois éliminer ma femme, ça veut dire que je dois lui redonner sa juste place. Hein? Vous comprenez cela? Hein? Mais il y a des hommes qui idolâtrent leur femme, ou des femmes qui idolâtrent, qui adulent leur mari. Et ça déplaît à Dieu. Je ne peux pas dire, oh mon Dieu! Puis après, je ne m'occupe pas de lui, puis je donne mon amour à quelqu'un d'autre à la place de lui. Donc, dire, tu es mon Dieu. Donc, Dieu voulait se révéler à Adam comme son seul vrai Dieu, son seul objet d'adoration. Maintenant, il voulait faire comprendre à Adam qu'il était aussi son créateur. Par rapport à Adam, à quel niveau placez-vous le créateur? À quel niveau? Infériorité, égalité ou supériorité? Dieu en tant que créateur, à quel niveau? Pardon? Supériorité, vous êtes d'accord? C'est-à-dire tout en haut? Ok, c'est très bien. Donc, on va mettre le créateur ici. Et maintenant, d'un côté, il y a le créateur, de l'autre côté, il y a quoi? On appelle comment de l'autre côté? Une créature. Voilà. Donc, il y a un Dieu et un adorateur, un créateur, une créature. Donc, ça, c'était une autre relation. Adam pouvait dire, oh, c'est toi qui m'as créé. C'est vrai. Il a découvert qu'il n'est pas venu sur la terre comme ça, par hasard, par un coup de baguette magique. Il y avait quelqu'un qui l'a créé. Donc, il pouvait s'adresser à lui, il pouvait lui parler en tant que son créateur. C'était une autre relation. Maintenant, puisque c'est Dieu qui a créé Adam, eh bien, Dieu était le père d'Adam. Vous êtes d'accord? Maintenant, le père par rapport au fils, ou le père par rapport à la fille, à quel niveau est-il? Pardon? Aussi supériorité, vous êtes d'accord? D'accord. Donc, le père, c'est vrai dans le spirituel, c'est vrai dans le naturel, il est aussi en position de supériorité. Je dis bien que c'est une position. Encore une fois, ça ne fait pas de la personne, sur le plan naturel, quelqu'un de, disons, de supérieur à tous les niveaux. Non, c'est juste une position. Donc, on a tous des positions différentes. Certains pensent, on en parlera aussi, « Ah, mais, et ça, c'est vraiment l'esprit du monde. Il faut absolument être au-dessus des autres, hein, dominer les autres, être plus grand, plus fort, plus riche que les autres. » Mais cet esprit-là ne vient pas de Dieu. Non. On le verra aussi tout à l'heure. Donc là, Dieu voulait qu'Adam sache, « Adam, je suis ton père, je suis ton papa. Tu es mon fils, Ève, tu es ma fille. » Maintenant, remarquez aussi ceci, c'est vrai, ce que vous entendez là, ce sont des principes. C'est quelque chose qui est comme ça, c'est immuable, ça s'applique dans tous les domaines. Si quelqu'un est en position de supériorité, comme nous le voyons là, on peut dire, ah, mais c'est fantastique, quelle chance il a. Mais ce n'est pas si facile que ça d'être en position de supériorité. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que vous êtes responsable de tous ceux qui sont en dessous de vous. Vous êtes d'accord? Dans tous les domaines, dans la famille, dans la société, au travail, dans l'église, si quelqu'un est en position de supériorité, il devient responsable de tous ceux qui sont en dessous de lui. Et des fois, c'est lourd de porter cette responsabilité. Mais c'est aussi une position d'autorité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui est en position de supériorité a le droit de dire à ceux qui sont en dessous de lui, « Eh bien, je vous demande de faire ça, et les autres doivent exécuter. » Donc, ceux qui sont en dessous doivent obéissance et soumission à la personne en position de supériorité. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 13, je crois. Soumettez-vous aux autorités supérieures, qu'elles soient naturelles ou spirituelles. C'est le plan de Dieu. Il y a des positions différentes. Donc là, quand Dieu se révèle, et ça répond chaque fois à des attributs différents de Dieu, des fonctions différentes de Dieu, quand Dieu dit « Adam, je suis ton père », ça veut dire maintenant que Dieu va remplir le rôle de père pour Adam. Or, un père, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, non seulement il est le géniteur, c'est-à-dire que c'est lui qui a donné sa semence pour amener une naissance, mais ça veut dire qu'il doit aussi pourvoir aux besoins de ses enfants, c'est ce que vos parents font. Il pourvoit vos besoins, il vous donne un toit, la nourriture, le vêtement, donc il travaille pour que vous ayez tout ce qu'il vous faut. Ça veut dire qu'il doit protéger aussi ses enfants, c'est sa responsabilité de père. Ça veut dire aussi qu'il doit parfois corriger les enfants, hein, parce que les enfants n'ont pas la maturité pour des fois faire les choses correctement. Donc le papa, par amour, doit dire « Non, fiston, fais pas ça, tu vas te faire du mal, c'est pas bien. » Ou bien « Fais plutôt cela. » Ça veut dire aussi que le père, eh bien, doit être un modèle pour ses enfants. On apprend généralement plus en regardant les autres faire plutôt qu'en écoutant simplement de la théorie, vous êtes d'accord? Et généralement, on répète le comportement des personnes qui nous entourent parce qu'on a vu les gens faire cela, donc on fait la même chose, en bien ou en mal. Donc, être père spirituellement ou être père naturellement, comme les papas ici aujourd'hui, ce n'est pas un rôle facile. C'est vrai. C'est une fonction très exigeante. Il y a beaucoup de responsabilités. Il y a des comptes à rendre. Et aussi, ça c'est quelque chose d'important, la personne qui est en position de supériorité, elle doit aussi rendre des comptes à la personne qui est au-dessus d'elle aussi. Donc, c'est une grâce, mais c'est en même temps une lourde charge d'être dans cette position-là. Et ensuite, quand Dieu a dit à Adam, vous pourrez manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa parole, on pourrait dire une loi à Adam. Ce n'était pas toute une Bible, c'était juste une phrase. Vous pouvez faire ça, mais vous ne pouvez pas faire ça. Et là, Dieu s'est manifesté comme législateur, celui qui promulgue une loi. Était-ce une bonne loi ou une mauvaise loi? Une bonne loi. Ce n'était pas pour faire du mal à Adam, c'est parce que Dieu voulait le protéger. Donc Dieu lui a dit à Adam, mange de ces arbres, ça te fera du bien, mais ne mange pas, ne touche pas celui-là. Donc il va donner, donc à quel niveau mettez-vous le législateur? Voilà, très bien. Donc ça c'est vrai, c'était facile. Après, ça, des fois ça devient un petit peu plus difficile, puis maintenant, il y avait Adam et Ève qui étaient là. Voilà, comme ça. Donc regardez, on avait Dieu, on avait Créateur, on avait Père et Législateur. Et ça correspond à quatre rôles différents de Dieu, qui manifestent quatre attributs différents de Dieu. Et chacun de ces rôles, eh bien, c'est une relation différente avec l'homme et la femme qui sont là, qui établissent une relation avec Dieu. Mais chaque fois, c'est différent. L'adorateur, eh bien, il se comporte d'une certaine façon vis-à-vis de son Dieu. Mais maintenant, le fils ou la fille, eh bien, il aura aussi un comportement qui sera en fonction de la relation père-enfant qu'il a aussi. Vous comprenez cela? Que chaque relation a des caractéristiques bien différentes. Juste pour vous donner un petit exemple, je souhaite que ce soit vraiment toujours très concret. Mon épouse et moi, nous sommes parents de quatre filles. Et nous sommes grands-parents de quatre petites filles. D'accord? Eh bien, ma relation, et je pense que ceux qui sont dans la même situation que moi seront d'accord, ma relation avec mes petites filles n'est pas la même que ma relation avec mes filles. Combien sont d'accord? Hein? Et vous qui êtes grands-parents comme nous, eh bien, je crois que tout le monde le dit, c'est tellement plus agréable d'être grand-parent que d'être parent. Vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce que la relation est différente. Vous comprenez la chose? Maintenant, vous me dites si ça devient un peu trop compliqué, mais je crois que c'est assez évident. La relation est différente du grand-papa au petit-fils ou à la petite-fille que du papa avec le fils ou la fille. Avec mes filles, j'étais directement responsable de leur éducation, hein, qu'elles fassent les choses correctement, qu'elles marchent droit et tout. Donc, des fois, je devais sévir, je devais corriger, tout cela, c'était... Il y a eu des moments de très forte tension entre mes filles et moi. C'était des fois très, très difficile et tout cela. Parce que j'étais directement responsable devant Dieu de leur éducation. Mais maintenant que nous avons pris une autre position qui est de grands-parents avec des petites filles, or elles viennent passer quelques jours, un week-end, quelques jours de vacances et tout cela. Mais maintenant, on fait que tout aille bien, mais on fait très peu de discipline. Hein. Simplement, on veille, mais on les chouchoute, on les cajole et tout ça. C'est une autre relation. On laisse la partie difficile au papa et à la maman. N'est-ce pas vrai? Hein? Je crois que c'est la chose à faire. Non, je ne suis pas leur papa, mon épouse n'est pas leur maman. On a une autre position. C'est une autre relation. Donc chaque relation a certaines caractéristiques qu'on ne peut pas mélanger avec d'autres. Maintenant, si moi, en tant que grand-papa, je me comporte avec mes petites filles comme leur papa, ça va créer des problèmes. J'ai expérimenté aussi cela autour de moi. Si les grands-parents se comportent comme s'ils étaient les parents, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes d'autorité avec les parents eux-mêmes, où les parents diront, mais écoute, c'est pas toi à faire ça, c'est moi qui élève mes enfants. Toi, t'es grand-papa, t'es la grand-maman, c'est moi qui les élève, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui corrige, c'est moi qui veux qu'ils suivent un certain chemin. Donc si les grands-parents maintenant veulent se substituer aux parents, ça va créer des frictions. Qu'est-ce qu'ils font là? Parce qu'ils sont plus dans leur place. Plutôt de rester dans la position de grands-parents, ils veulent prendre la position des parents. Et ça va grincer. Ça ne va pas jouer parce que des fois les grands-parents n'ont pas toujours les mêmes idées que les parents et ça va faire un conflit d'autorité. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Donc, c'est important que chacun garde sa place. Hein? Maintenant, si les grands-parents voient quelque chose, ils ne doivent pas chercher à influencer directement les enfants pour ne pas créer les problèmes. Ils doivent en parler aux parents en disant, tu sais, j'ai remarqué ceci ou cela, eh bien, je le soumets, c'est toi le papa, c'est toi la maman, eh bien, regarde ce que vous voulez faire. Mais pas s'interférer. Donc, toutes ces choses, eh bien, sont des choses, je crois, que Dieu nous montre dans sa parole et dans la vie de tous les jours. Donc là, quand vous voyez cette image-là, moi, je trouve que c'est une image magnifique. D'un côté, il y a Dieu, d'un côté, il y a des êtres humains qui ont déjà quatre cordes de relation les uns avec les autres. Et ça veut dire qu'il y a, un lien, il y a une unité, il y a une harmonie, il y a un respect, il y a une paix, il y a un amour, ce sont des cordes d'amour. Rappelez-vous, des cordes d'amour. Il n'y a pas de contrainte. Hein? On peut lâcher la corde, non, mais c'est souhaiter des deux côtés, on veut être en relation l'un avec l'autre. C'est comme ça que Dieu le voulait au commencement, et que ces relations puissent demeurer éternellement. Et amplifier ces relations par encore d'autres relations. C'est ce que Dieu voulait. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé d'après la Bible? Eh bien, la Bible parle du diable, qui est l'ennemi de Dieu, de Satan. Et quand Satan a vu cela, cette unité, cette harmonie, il a dit, eh bien, je vais tout faire pour démolir ça, pour casser cela. Alors, il a agi au travers du serpent, qui avait une apparence humaine, qui était l'animal le plus évolué de toute la création. Une de ses cordes, c'était la relation père et enfant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a menti à Ève. Il lui a dit quelque chose qui n'était pas vrai. Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et le serpent a dit, non, vous ne mourrez pas. Vous deviendrez comme des dieux. Et qu'est-ce que Ève a fait? Elle s'est laissée piéger. Et qui est-ce qui lui parlait? Maintenant, donc, c'est plus là. Qui est-ce qui lui parlait? C'est ce que la Bible appelle le père des mensonges. Plutôt que de rester relié avec son vrai père de qui elle était issue, elle a écouté un autre papa qui lui disait un mensonge, le père des mensonges. Donc plutôt que de garder ses yeux sur le vrai Dieu, elle a détourné son regard, elle a écouté un autre père. Et à ce moment-là, cette relation privilégiée était cassée. Hop! Il y a une coupure entre Ève et son vrai père. Parce qu'elle avait détourné ses regards, elle a écouté un autre père qui lui a dit un mensonge. Maintenant, plutôt que d'avoir une relation d'adorateur ou d'adoratrice avec Dieu, eh bien maintenant, elle a accepté que quelqu'un vienne se mettre entre elle et Dieu. Vienne en quelque sorte court-circuiter cette relation avec Dieu. Et là maintenant, cette relation adoratrice et Dieu était cassé. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Maintenant, elle avait reconnu Dieu comme son créateur. Et Adam et Ève étaient à l'image de Dieu, donc Dieu leur avait donné la puissance créatrice par la parole. N'est-ce pas vrai? Ils avaient les mêmes caractéristiques que Dieu. Et le plan parfait de Dieu, c'est le message qui nous le révèle, aurait été que Adam, par la parole, crée en Ève des enfants dans le sein d'Ève, comme ça s'est passé pour le Seigneur Jésus. Ésaïe a prophétisé sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a parlé, la Vierge concevra, elle enfantera un fils. Et plusieurs siècles plus tard, cette parole s'est matérialisée dans le sein d'Ève, sans relation physique, sans relation sexuelle. Eh bien, c'est ce que Dieu avait prévu pour Adam et Ève au commencement, parce que seul l'homme, pas les animaux, seul l'homme, avait reçu la puissance créatrice par la parole. Et ce qui s'est passé, eh bien, plutôt que d'utiliser ce privilège de pouvoir agir comme Dieu agit, eh bien, Ève a écouté le serpent qui lui disait « Mais moi, je vais te dire comment tu peux avoir des enfants. » Et il l'a introduite dans la manière des animaux de procréer, c'est-à-dire d'une manière physique, au travers d'une relation sexuelle. C'est ce que Dieu avait donné au règne animal, aux animaux qui n'ont pas la parole parlée. Donc, plutôt que Adam et Ève restent à leur niveau de fils et de filles de Dieu, à l'image de Dieu, en écoutant le mensonge du serpent, ils sont descendus d'un cran. Ils ont commencé à se comporter comme des animaux sur le plan de la procréation. Et c'est comme ça que nous sommes tous venus au monde. Nous sommes quand même là, et Dieu a permis cela pour réaliser son plan. Mais on est descendus d'un cran. Donc là, regardez aujourd'hui, nous sommes en 2010. combien y a-t-il dans votre entourage de personnes qui croient encore à un Dieu créateur qui a créé les cieux et la terre? Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants à l'école? Il y a eu un boum, un big bang. Et tout à coup, c'est fantastique. Tout est apparu, parfaitement fait, terminé, tout cela. On nie le Dieu créateur. On croit qu'il y a eu simplement une explosion, un big bang, et puis tout est apparu comme ça, d'une façon magique. Mais c'est une offense à Dieu, cela. Ça veut dire qu'on rejette maintenant Dieu comme créateur. Donc c'est ce que Satan voulait faire. Il voulait faire tout ce qu'il pouvait pour casser ses relations, casser ses relations. Et il a réussi, malheureusement. Et maintenant, il reste encore la relation législateur et puis maintenant personne qui suit ses commandements. Eh bien, en faisant douter Ève de l'authenticité de la parole de Dieu, elle a passé outre la parole de Dieu. Donc maintenant, cette relation de confiance, rappelez-vous, ce sont des relations de confiance, l'un par rapport à l'autre. On a confiance dans l'être supérieur, lui a confiance en nous. Donc ce sont des relations d'amour et de confiance. Eh bien, Ève n'a plus confiance dans la parole de Dieu, qui disait « le jour où vous en mangerez, vous mourrez ». Donc elle a renié cette relation-là, et ça c'était le moment de la chute. C'était un moment terrible, frères et sœurs, très dur pour Dieu, de voir son fils et sa fille, qui étaient maintenant séparés de lui à cause du péché, à cause de l'incrédulité, où le diable avait réussi à casser toutes ses relations, ses quatre premières relations qu'il voulait avoir avec son fils et sa fille. Au frère Branham dit ceci, qu'avant que ce soit cassé, que Dieu descendait tous les soirs dans le jardin d'Éden, dans cette grande cathédrale dans la forêt, et que là, eh bien, il venait communier avec Adam et Ève. Ils avaient une réunion là dans les bois, tous les soirs, et Dieu leur demandait, « Mes enfants, avez-vous eu une bonne journée aujourd'hui? Comment ça s'est passé ?»« Oh, c'était magnifique, papa. Vraiment, on a fait une belle promenade dans le jardin, on a admiré les belles fleurs, on a été caresser les animaux, et tout ça, c'était magnifique. » Et Dieu a dit, eh bien, je suis content pour vous et je suis réjoui. Bien maintenant, c'est le moment de vous coucher. Et Adam et Ève s'est couchés. Puis après, Dieu veillait sur eux. Et les animaux étaient tout autour, mais aucun ne leur faisait du mal. Et un peu comme un papa et une maman, eh bien, il a endormi ses enfants, qui étaient en bon sommeil. Il veillait sur eux. C'est un vrai papa. Il veillait sur son fils et sa fille. Ils avaient communion, ils avaient un échange et tout ça, un partage. C'était formidable. Mais maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Tout est cassé maintenant. Toutes ces magnifiques relations sont cassées. Est-ce que maintenant, Dieu, ça vous vaincu? Est-ce que Dieu dit maintenant, c'est fini? Tout mon projet, tout mon plan, tout est fini, tout est une catastrophe, c'est fini? Non, non. Dieu qui sait toutes choses savait que ça allait arriver. Et il a permis que cela arrive pour que lui puisse faire quelque chose d'autre encore. N'est-ce pas vrai? Et si vous pouvez retenir ceci, et ça devrait nous servir à nous aussi, dans nos relations les uns avec les autres. Quand Dieu a vu cette scène, ce spectacle, maintenant toutes ses premières relations sont cassées, Dieu ne s'est pas avoué vaincu. Bon, qu'est-ce qui s'est passé aussi à ce moment-là? Dieu maintenant, il a pris une autre fonction, que bien des gens n'aiment pas beaucoup, mais on va en parler, c'est une fonction fantastique. Il a pris la fonction de juge. Adam et Ève avaient désobéi à la parole de Dieu. Ils devaient maintenant porter les conséquences de leur péché. Donc, ce même jour, eh bien, Dieu est intervenu et les a fait sortir du jardin d'Éden. Rappelez-vous que Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Je vous pose une question maintenant, vous faire un petit peu réfléchir, vous qui avez lu la Bible. Sont-ils morts ce jour-là? Non. Ils ont continué à vivre pendant plusieurs centaines d'années. Est-ce que Dieu s'est trompé? Est-ce que Dieu peut se tromper? Non. Or, il y a quelque chose à comprendre. C'est quoi la mort, là, pour vous? Comment pouvez-vous expliquer la mort? La mort, c'est quoi? Pardon? Je n'ai pas compris, c'est une... Ne plus exister, d'accord, merci, ne plus exister, c'est vrai, mais par rapport aux autres personnes, plus d'âme aussi, mais quand quelqu'un meurt, eh bien, qu'est-ce qui se passe entre cette personne et puis les autres qui étaient autour d'elle? Non? il y a une séparation, une coupure. Hein, hein, un est d'un côté, les autres de l'autre. Eh bien, ce jour-là, y a-t-il eu une séparation? Oui. Spirituellement parlant, il y a une séparation entre Dieu et eux. Et ça, c'est la mort. La mort est une séparation. Sur le plan spirituel, depuis ce jour-là, ils n'avaient plus la même communion avec Dieu. Donc, ils étaient toujours vivants dans leur corps physique, c'est-à-dire qu'ils mangeaient, ils buvaient, ils travaillaient, c'est tout autre de choses, mais spirituellement, ils étaient morts. Est-ce que la Bible dit cela? Dans Timothée, il est parlé, la femme qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Avez-vous lu ça dans votre Bible? Eh bien, aujourd'hui, je crois que nous sommes entourés de morts vivants. Beaucoup de gens autour de nous n'ont pas de communion avec Dieu. Donc, ils sont morts pour Dieu. Ils sont séparés de lui. Et pourtant, ils vont travailler, ils vont à l'école, ils mangent, ils boivent, ils s'amusent et tout cela. On peut dire, mais moi, je suis vivant, je ne suis pas mort, je suis vivant. Mais sur le plan de la vie, la vraie vie, ils sont coupés d'avec Dieu. Il y a une séparation. Donc, la parole de Dieu ne peut pas faillir. Ce jour-là, le jour où ils ont désobéi, ils ont été séparés, coupés d'avec Dieu, spirituellement parlant. Mais physiquement, ils ont continué à vivre, mais physiquement, leur corps a commencé à mourir. Ils ont commencé à vieillir. Il y a un processus de mort qui s'est installé physiquement dans leurs cellules. Ils ont commencé à descendre la pente. Plutôt que de vivre en parfaite santé, éternellement, une jeunesse éternelle, ils ont commencé à descendre la pente sur laquelle nous sommes aujourd'hui. Je ne suis plus le garçon de 20 ou de 30 ans. Non, je descends la pente. Amen. C'est un processus de mort. Il y a certaines cellules qui ne se régénèrent plus. Je suis en train de mourir. Même que je vis, je mange, mais je suis déjà en train de descendre. Donc là, maintenant, Dieu, il a pris, rempli un autre rôle, celui de juge. Il avait donné sa parole, elle était transgressée, un jugement devait tomber. Et le jugement, c'était la mort, une séparation d'avec lui. Donc maintenant, le jugement a été prononcé. Non, séparation, c'est une coupure. Maintenant, est-ce que c'est la fin de l'histoire? Non, non. Dans le jardin d'Éden, eh bien, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que Adam et Ève se sont cachés le bas du ventre avec des feuilles de figuier, mais Dieu a dit non, cette religion-là, ça ne va pas. Moi, je vais vous donner des habits. Et Dieu leur a donné des habits de peau. Et où a-t-il pris la peau? Il l'a pris sur des animaux. Et ces animaux, eh bien, Dieu les a offerts lui-même en sacrifice dans le jardin d'Éden. Il a pris les peaux. Il en a revêtu Adam et Ève et sont partis ainsi du jardin revêtus de peau que Dieu leur avait donnée pour cacher leur corps. Mais ça parlait de quoi? Déjà dans le jardin d'Éden, qui avait un autre attribut très important qui était en Dieu, c'était l'attribut de rédempteur. Déjà dans le jardin d'Éden, Dieu a dit, vous avez péché, par vos désobéissances vous avez été coupés d'avec moi, vous avez écouté la mauvaise voix, le mauvais message, la mauvaise religion, la mauvaise influence, mais Dieu a dit, je ne m'avoue pas vaincu, je vous aime. N'est-ce pas merveilleux qu'on peut désobéir à Dieu, on peut transgresser sa parole, on peut se séparer de lui et que Dieu nous aime encore? Je ne serais pas ici ce soir devant vous si Dieu n'avait pas continué à m'aimer, même que j'étais désobéissant ou rebelle, ou indiscipliné, ou je voulais faire à ma tête. Dieu était triste. J'ai beaucoup de fois attristé Dieu, mais Dieu a continué à m'aimer. Et voilà pourquoi je suis ici ce soir. Et quand Dieu voit qu'il y a des relations qui sont brisées, ça c'est la grandeur de Dieu. Et Frère Branham en parle dans plusieurs messages comme Dieu dévoilé, le Dieu puissant dévoilé devant nous. Il dit Dieu change de masque. Donc, chacune de ces fonctions, c'est un masque différent. Dieu met le masque de Dieu. Après, Dieu met le masque de créateur. Dieu met le masque de père. Dieu met le masque de législateur. Dieu met le masque de juge. Dieu met le masque de rédempteur. Dieu change de masque, mais à l'intérieur, il est toujours le même. Il peut changer de masque, mais il ne peut pas changer de nature. Et ça, c'est quelque chose d'important dont il faut se souvenir. Et dans la nature de Dieu, il y a un amour parfait. Et c'est quelque chose qui est une partie de Dieu, ça ne peut jamais changer, ça fait partie de sa nature. La sainteté, ça fait partie de la nature de Dieu, ça ne peut jamais changer. L'humilité, ça fait partie de la nature de Dieu, ça ne peut jamais changer. La justice, ça fait partie de la nature de Dieu, ça ne peut jamais changer. Donc retenez ceci, parce qu'on le verra au cours des prédications, Dieu change de masque. C'est pour ça que les gens disent, il y a un Dieu, deux dieux, trois dieux, quatre dieux, tout cela, et ça pue très bien. Non, il y a un Dieu, mais un Dieu qui change de masque. Pourquoi est-ce qu'il change de masque? C'est pour répondre à un besoin différent. Et pour avoir une autre relation avec nous. Donc il doit changer de rôle, il change de masque, on pourrait dire il change de casquette, simplement pour répondre à un autre besoin. Donc là, en offrant ce sacrifice dans le jardin d'Éden, eh bien Dieu a mis le masque d'un rédempteur, c'est-à-dire de racheter. Il a payé lui-même un prix pour permettre à Adam et Ève de revenir à lui à un certain moment. Et à ce moment-là, le sacrifice animal est introduit. Pendant plusieurs siècles, vous savez, d'après la Bible, ils offraient des animaux, des agneaux, des taureaux, des tourterelles, comme ça, en sacrifice. Mais c'était juste pour couvrir le péché. Ce n'était pas un sacrifice parfait, ça ne faisait que couvrir le péché. Ça ne changeait pas le cœur de la personne, ça ne donnait pas une nouvelle nature. Mais le plan de Dieu, c'était que le jour viendrait où lui-même deviendrait le sacrifice. Donc jusqu'à maintenant, on a vu ce Dieu-là en position de supériorité. Mais lorsque Dieu est devenu lui-même l'agneau de sacrifice, quelle position a-t-il prise, d'après vous? Pardon? Égalité, c'est bien, mais ce n'est pas tout à fait ça. Infériorité. Dieu est descendu. La Bible dit, il est descendu. Et Dieu s'est mis là, tout en bas de l'échelle, en position d'infériorité. Pourquoi faire? Pour essayer de rétablir avec nous au moins une relation. Et il vient vers nous, vers chacun d'entre nous ce soir, et dit, est-ce que tu es prêt à m'accepter comme agneau de sacrifice? Est-ce que tu es d'accord que je prenne ta place sur la croix? Et quand il vient comme un agneau, premièrement, qui a peur d'un agneau? Personne. Un agneau ne fait peur à personne. On peut avoir peur de Dieu. Il y a des gens qui, oh Dieu, Dieu, tout ça. Quand Dieu est descendu sur la montagne du Sinaï, les gens tremblaient tellement c'était impressionnant. Mais personne ne tremble devant un agneau. Dieu, en tant que Dieu, peut dire, je veux que tu fasses cela. Parce qu'il est Dieu, on lui obéit. Mais maintenant, un agneau ne vous donne aucun commandement, ne vous impose rien du tout. Il se fait tout petit. Il se met en dessous de vous. Il n'y a aucune contrainte, il n'y a aucune pression. Il offre simplement quelque chose de gratuit. Le salut gratuit en Jésus-Christ. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est le message de l'Évangile. Dieu est descendu et s'est présenté sous la forme d'un petit agneau, Jésus-Christ, un agneau parfait qui a pris notre place sur la croix de Golgotha. Pourquoi faire? Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'il nous aimait, et quoi encore? Il voulait de nouveau rétablir une relation avec nous. Regardez, toutes ces relations ont été brisées, parce que ça venait d'en haut, et l'homme, par nature, il est rebelle. Il ne veut pas se soumettre à une autorité supérieure. Ils vont faire à sa tête. Moi, je sais, moi, je suis capable, je n'ai besoin de personne, je n'ai pas besoin de Dieu, moi, je suis assez intelligent, je peux me débrouiller tout seul. Tu as dit, vas-y. Et l'homme s'est cassé le nez, il s'est fait du mal et tout cela. Et après, Dieu a dit, mais je vais quand même l'aider. Alors, pour pas que l'homme ait peur de lui, ou pas que l'homme, disons, le craigne, eh bien, il s'est mis en dessous de lui. On peut rejeter quelqu'un au-dessus. Les enfants sont rebelles aux parents. Les employés sont rebelles au patron. On est rebelle à une autorité spirituelle d'un pasteur ou comme cela. Donc les gens n'aiment pas être dominés ou de sentir inférieur à quelqu'un d'autre. Ça, c'est la nature humaine qui a de la peine à supporter cela. Maintenant, on peut dire l'égalité. Aujourd'hui, tout pour l'égalité. Égalité homme-femme, égalité ceci, égalité cela. Tout le monde sur le même plan. Mais savez-vous que ça ne marche pas non plus? Quand vous avez des gens sur un plan d'égalité, on voit ça même dans la nature. J'ai été quelquefois en Afrique aussi, dans des réserves, en Afrique du Sud et tout. On le voit même ici avec nos animaux domestiques, les chiens, les chats, tout cela. Lorsque des animaux et des êtres humains sont sur le plan d'égalité, qu'est-ce que ça provoque souvent? Des frictions, des rivalités. N'est-ce pas vrai? Ce n'est pas toujours le grand amour parce qu'on est tous au même niveau. Prenez votre pasteur et moi. nous venons les deux du même pays, la Suisse, on a pratiquement le même âge et on a le même rôle. Nous sommes deux pasteurs. Maintenant, il m'invite ce soir à venir prêcher chez vous. Mais je dois veiller à mon comportement. Je ne suis pas dans mon église, je suis dans son église. Maintenant, si je venais ici avec une attitude autoritaire, comme maître et seigneur dans l'assemblée de Lamblore, comme ça, ça créerait un problème entre le frère Michel et moi. Il dirait, mais qu'est-ce qui arrive au frère François? Il se comporte comme s'il était le pasteur de l'église, il veut changer ceci, il veut faire cela, tout ça, mais ça ne joue pas, c'est moi le pasteur ici. Vous comprenez la chose? On aurait beaucoup de points de ressemblance, on pourrait dire le même âge, la même provenance, les mêmes origines, le même ministère, etc. Mais maintenant, je ne suis pas dans mon église ici. Je ne peux pas agir dans cette église comme dans mon église. Et en venant ici, pour être une bénédiction à cette assemblée et à votre pasteur, je dois me mettre en position d'infériorité par rapport à lui. Je dois le respecter dans sa fonction dans cette église. C'est lui, et pas moi, lui le responsable de votre âme devant Dieu. Donc s'il m'invite, je dois respecter sa confiance, je dois respecter sa chair, et je dois venir ici avec un esprit doux et paisible, simplement pour encourager, pas pour corriger, pas pour faire... Non, simplement pour encourager, c'est lui le papa de l'Église, c'est pas moi. Moi, je suis juste un ami, un frère, pour encourager, pour aider. Donc, je ne viens pas ici avec Frère Michel en position d'égalité. Non, je ne veux pas avoir des problèmes avec lui, je veux garder son amitié. Donc, pour être une bénédiction pour lui et pour vous, je viens ici avec la plus grande humilité, en disant, voilà, si je peux faire quelque chose pour vous aider, je le fais. Mais je me mets sous son autorité. C'est lui qui peut me dire, frère François, arrête de prêcher ça, ou bien arrête ceci, ou ne fais pas ceci, ou fais cela. C'est lui le responsable, et je dois me soumettre. Vous comprenez la chose? Donc là, le Seigneur Jésus, il était supérieur avant, il était rejeté comme être supérieur. On va parler de l'égalité aussi plus tard, mais pour maintenant rétablir une première relation avec nous, il s'est mis le plus bas possible, de telle manière qu'on n'ait pas peur de lui. On a peur d'un supérieur et des fois on est méfiant d'un égal. Est-il un ami? Est-il un rival? Mais quand quelqu'un se fait tellement petit et tellement humble comme ça, qu'on n'ait plus peur de lui, à ce moment-là, on devrait pouvoir l'accepter. C'est pour ça que Dieu s'est abaissé, s'est fait le plus petit possible en Jésus, un agneau, que personne n'ait peur de lui. Mais il voulait simplement nous dire, malgré tout le mal que tu as fait, tout le péché que tu as commis, je veux que tu saches, je t'aime encore. Je t'aime encore. Et parce que je t'aime, eh bien, j'aimerais rétablir déjà une relation avec toi. Me permets-tu d'être ton agneau de sacrifice, ton serviteur? Jésus a dit, en venant sur la terre, je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. Pensez à cela, le grand Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui se fait le plus petit parmi les plus petits. Pourquoi? Pour rétablir une relation brisée. Maintenant, je dirais ceci, il faut être fou, si je peux utiliser ce terme-là, fou, inconscient, de rejeter Christ comme agneau de Dieu, celui qui voulait donner sa vie pour moi. Alors que ça ne m'engage à rien, à dire je n'ai rien à perdre, j'ai simplement à dire je t'accepte comme mon agneau, comme mon sauveur. Je t'accepte comme cela. Il n'y a aucune pression. Et ceux qui l'acceptent, et je pense que nous tous, je pense que nous l'avons accepté, eh bien, ça rétablit une première relation. Et maintenant, quand vous regardez votre agneau, vous êtes en position de supériorité et vous avez Jésus qui est là, votre agneau de sacrifice. Mais maintenant, il y a de nouveau une relation qui est là, qui est établie, qui doit nous montrer que vraiment ce Dieu que nous avons rejeté tant de fois, il nous aime. Il nous aime tellement qu'il aimerait reconstruire toutes ses relations et beaucoup d'autres encore. Pourquoi? Pour qu'on soit un avec lui. Et pour moi, je dis, Seigneur, comme tu es merveilleux. Je ne suis pas digne de cela, personne n'est digne de cela. Mais pour moi, ça, c'est la grandeur, la grâce de Dieu, qui nous aime tellement. En tant que Dieu, il pourrait venir nous imposer, je veux que tu fasses ceci. Il n'est pas comme ça, il n'impose rien. Ça doit être consenti, ça doit être ressenti, accepté par nous. On doit dire, oui Seigneur, je t'accepte comme ceci, je t'accepte comme cela, je t'accepte en tant que ceci. Mais si on n'accepte pas, il ne te force pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il change de masque et s'abaisse. Si ça ne marche pas, il change de masque et s'abaisse encore. Espérant qu'à un certain moment, eh bien, on accepte au moins la plus petite, la plus humble de ces relations avec le sacrifice, l'agneau de sacrifice, le sauveur. Et après, une fois qu'on a cette première relation, eh bien après, il essaie de reconstruire d'autres relations. Et ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte, pour rétablir toutes ces relations. Et pour moi, ça c'est la vie chrétienne. C'est, disons, de reconstruire toutes ces relations qui ont été brisées par le péché, par le diable, de tout reconstruire. Et il y a le passage de Romains 8 qui dit ceci, « Rien ne pourra nous séparer. » Il n'y a plus rien qui pourra briser ces relations à cause de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni la mort, ni la vie, ni l'épreuve, ni ceci, ni cela. Rien ne pourra casser, frères et sœurs. Je crois que nous sommes là pour dire, eh bien, j'ai passé par des moments très difficiles, mais le diable n'a pas réussi maintenant à casser ces relations. Elles ont tenu bon. J'ai besoin de ces relations et je veux ces relations, je veux amplifier ces relations. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci vraiment pour votre patience, votre écoute, mais vous verrez, c'est merveilleux de voir toutes ces relations très simples. Dieu, Seigneur, Sauveur, ami, conseiller, tout ça, toutes ces relations que Dieu veut avoir avec nous, comme cela. Pour moi, c'est quelque chose qui fait vraiment beaucoup de bien, de penser, mais j'ai une corde, j'ai une relation d'amour, de confiance avec ce grand Dieu qui m'aime. C'est mon Dieu, c'est mon Père, c'est mon Seigneur, c'est tout. Et après cela, une fois qu'on a bien compris cela, qu'on a vu comment Dieu agit par rapport à nous, après, on peut dire, Seigneur, je veux suivre ton exemple dans mon comportement avec les autres aussi. Et certainement que vous le vivez déjà, mais quand on a bien compris ce qui se passe, je peux vous dire, ce genre de révélation que Dieu m'a donnée dans sa parole a fait de moi un homme encore plus heureux et plus libre qu'avant. Vraiment, je suis heureux et de plus en plus, je peux même être dans des situations difficiles avec peut-être des gens désagréables et tout ça. Et j'essaie une certaine relation. Si ça ne passe pas, je change de masque, je change de rôle, je change de relation et j'essaie autre chose. Ça passe pas et je change de nouveau. Pourquoi ? J'aime les gens. Comme Dieu m'a aimé, j'aime les gens. Et j'essaie avec l'aide du Seigneur de m'abaisser. Pourquoi ? Pour m'approcher des gens. Juste un petit exemple pour terminer. J'ai travaillé pendant presque 10 ans à la banque en Suisse entre 1990 et 1999. J'avais une formation de banque quand j'étais un jeune homme, puis après pendant 20 ans, eh bien, je n'ai plus travaillé dans la banque, j'étais seulement dans le ministère, donc j'ai perdu tout contact, j'étais complètement déphasé par rapport à toute l'évolution de la banque. Et j'ai dû reprendre du travail, on avait acheté une maison, j'avais besoin d'un petit peu plus d'argent. Et le seul poste qu'il y avait dans cette certaine banque, c'était le poste de huissier. Et dans cette banque-là, l'huissier, c'était l'homme à tout faire. Il devait changer les ampoules électriques, il devait servir les cafés. C'était le serviteur de tout le monde. Et j'ai fait ça pendant bien des années. Mais je peux vous dire, c'était une très bonne place. Je devais apporter le café aux différents directeurs. Les autres personnes qui voulaient aller dans le bureau du directeur, ils devaient frapper et attendre qu'on leur dise « entrez ». Mais moi, que c'était le moment d'apporter le café au directeur, eh bien, je frappais et j'entrais directement. Et le directeur me c'est aucun reproche. C'était le moment qu'il reçoive son café. C'était presque sacré pour lui. Amen. Mais il n'avait pas peur de moi. Je n'étais pas son supérieur, je n'étais pas son rival, j'étais son serviteur. C'était le huissier François qui venait apporter à monsieur le directeur son café comme il l'aimait. Et j'ai pu m'approcher de tous ces directeurs de la banque, des hommes puissants et tout cela, parce que j'étais juste leur petit serviteur. Ils n'avaient pas peur de moi, parce que j'étais juste là pour leur rendre service. Et j'ai aimé remplir ce rôle-là. De pouvoir être le serviteur de mes collègues, des directeurs et tout cela. Et j'ai pu avoir des bonnes conversations avec les directeurs, des fois pendant le moment de la pause, on a parlé de la Bible, de Dieu, de toutes ces choses, mais je n'étais pas sur le plan d'égalité avec lui. J'étais le petit huissier, hein, le tout dernier, le tout en bas de l'échelle, mais j'étais tout près de lui, parce qu'il n'avait pas peur de moi. Et Christ a pu ainsi m'utiliser, et j'ai pu aussi donner mon témoignage sur cassette à tous les collègues de la banque, même au directeur avant de quitter la banque, tout ça, Christ a fait dans ma vie. Donc, c'était vraiment une bonne expérience. Enfin, juste pour vous dire que Dieu est bon, c'est bon d'être chrétien. Il y a tellement de choses à apprendre. La vie chrétienne est tellement enrichissante. Tous les jours, on apprend quelque chose de pratique, de concret. On vit quelque chose de puissant, de réel, entre Dieu et nous, les uns avec les autres. Et vous savez, quand on a de bonnes relations avec Dieu et avec son prochain, eh bien, on se sent mieux dans sa peau. On a une meilleure image de soi-même. On a plus d'estime pour soi-même parce qu'on sent que les autres nous acceptent, nous respectent, nous apprécient. Mais c'est à nous d'avoir une bonne attitude. Savoir comment aborder les autres pour ne pas que les autres se bloquent ou aient peur de nous. Et Jésus nous a donné un exemple parfait de cela. Pour s'approcher de nous et pour de nouveau être en relation avec nous. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, que ce que des gens ont partagé ce soir puisse intéresser mes frères et sœurs et les enfants aussi, que ce soit quelque chose de concret, de pratique, Seigneur, et alors que les réunions vont se continuer, eh bien que ça devienne de plus en plus clair, de plus en plus évident. Seigneur, mais que ça se traduise aussi par, au niveau de notre expérience personnelle, par quelque chose d'encore de plus profond, de plus sincère, de plus vrai, par rapport à toi et par rapport à notre entourage aussi, notre prochain. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait dans ma vie. Seigneur, tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux, Seigneur, et la patience que tu as avec moi, et l'exemple que tu m'as donné, Seigneur, et le bien que tu m'as fait, Seigneur, je te remercie pour cela. Et certainement que tu l'as fait aussi pour plusieurs de ces bien-aimés, mais que tout le monde puisse être encouragé. Tu veux donner à chacun la possibilité de vivre cette expérience, quelque chose qu'on peut vivre tous les jours, dans tous les milieux, partout où nous sommes. C'est pour cela, Seigneur, eh bien, merci de nous donner une bonne nuit de repos, renouveler nos forces, et prépare-nous pour les réunions de demain. Aide-moi, Seigneur, à être sensible à ta voix, à l'onction de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour simplement être un porte-parole, une bouche, quelqu'un qui puisse simplement parler pour toi et que nous soyons tous édifiés. Accorde-le, Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions et pour ta gloire. Amen.